I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Studio 404.
Studio 404.
L'émission de société numérique.
Studio 404, présenté par l'âme UA.
Bonsoir à tous. Nous sommes au Tank Paris et Mélissa, une jeune fille qui monte de province, arrive tranquillement au Tank. Elle rencontre toutes ses idoles, ses blogueurs influents, ses tweetos. Et elle rencontre aussi des gens très très importants qu'elle a suivis depuis très très longtemps. C'est une fanfiction, hein, je vous la fais. Prude et un peu timide, elle s'approche et elle découvre Daz, un homme un peu redoutable qui l'a toujours un peu fasciné et qui l'a un petit peu excité, mais Mélissa étant vierge, elle ne veut pas exprimer ses sentiments.
Je suis contre.
Quand soudain, elle tourne la tête et que se passe-t-il ? Sylvain Palais la regarde droit dans les yeux.
Bonsoir.
Sylvain qu'elle n'a jamais osé aguicher ou même apostropher sur Twitter. Sylvain Palais la regarde. Il lui dit « Bonsoir, Mélissa. »
« Bonsoir. »
« J'ai des hobbies très spéciaux. Veux-tu les voir ? » ?»«
Veux-tu découvrir la chambre rouge ?»
Mélissa dit oui.
Non.
Et Sylvain ouvre la porte et dans la porte, derrière la porte, se trouve Fibre. Fibre porte un costume fleuri, un fleuri intégral de tigre, sauf au niveau du sexe. Et il ne se contente de dire juste
« Bonjour, c'est Fibre Tigre. »
Mélissa est très 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 excitée. Mais elle se dit « Mais que faire ? Je ne connais personne dans cette ville, je ne suis personne. » Elle pense s'enfuir, elle se retourne et soudain, une main ferme, douce, mais ferme, la retient. C'est Ghislain. Il lui dit « Mélissa, maintenant que tu es rentrée dans ce contrat sexuel avec le studio 404, tu vas devoir affronter les 50 nuances de Gigi. » Ça va bien, le studio 404 ?
Ça va, ouais. Très très bien. Là, m'a pris de la drogue.
Ouais, oui, là, m'a craqué. Donc si tout va bien, je vais m'auto-éditer, puis ensuite on sera édité, puis ensuite on sera adapté en film. On fera 285 millions de dollars en 3 jours. Voilà, on se moque moins tout de suite de 50 Shades of Grey. On va pas parler de fanfiction ce soir, malgré l'envie de Fibre Tigre d'en parler. Ce sera pour le mois prochain, peut-être.
J'aimerais bien, j'adore ça.
Ah là là, c'est très intéressant, beaucoup plus intéressant qu'on pense. Mais on va parler de plein de choses intéressantes ce soir. Du complot, de l'espace, des politiques, Facebook, plein de choses vraiment très très importantes. Et juste avant, on va commencer par une petite fac qui revient sur une question de la semaine, du mois dernier.
FAQ.
J'hésitais à vous faire les facs en fanfiction, mais je pense qu'on va...
On va arrêter.
Alors, un petit côté service après-vente du mois dernier. Un auditeur, nous pose une question par rapport à ce qu'on avait dit sur Hello, qu'on avait un peu clashé il y a quelques temps. C'est Alexis qui nous demande, vous avez clashé Hello, mais alors, du coup, pour un réseau social parfait, quelle serait la fonctionnalité à créer, à améliorer ou à virer absolument, vraiment, pour vous avoir le réseau social nickel ? C'est le moment pitch my startup. Fibre.
Le réseau social qui déchire tout, c'est un réseau social qui met en valeur l'ego des gens sans avoir l'air qui se la pète. Mais ça, je sais pas trop comment le faire. Mais si j'y arrive, je viendrai milliardaire, je rachèterai les droits de ta fanfic. Et ouais.
Donc tout à l'ego, mais discretos.
Ouais, c'est ça.
Très bien. Sylvain.
Le réseau social parfait existe déjà.
Oh là là.
Il s'agit de Google Plus.
Allez, arrête.
Ça suffit. 4 ans plus tard,
c'est le témoin de Jéhovah de l'Internet.
Il faut arrêter de frapper les s'acharner sur les cadavres maintenant. Bon, mais on pourrait dire que c'est un réseau social parfait, parce que de toute façon, il est tellement loin que personne ne pourra jamais vraiment dire si t'as raison ou pas, en fait. On pourra jamais vérifier.
Exactement. Ça y est, je l'ai.
Ah, Daz.
Le réseau social parfait, ça serait celui qui te permet de dislike les posts.
Ah ouais, d'accord. Toi, tu veux un peu de négativité.
Non, un peu d'honnêteté, en fait.
Un peu d'honnêteté.
Comme Reddit, quoi.
Non, mais tu dislikerais.
Ouais, mais c'est
tout,
pas pareil, parce que Reddit, c'est pas tes potes. Hein ?
Tu dislikerais tout.
Mais pas du tout, putain, mais je suis super grand public, moi. Tiens, ça va pas.
Ça te prendrait un temps dingue, quoi.
N'importe quoi, j'aurais une macro pour le faire.
Mélissa, est-ce que t'as un réseau social parfait qui existe déjà, ou est-ce que quelque chose que tu apporterais pour avoir quelque chose?
Elle va pas le dire parce qu'ils sont en train de le préparer chez Slate et elle va le revendre.
J'aimerais tellement. Non, je sais pas. J'ai aucune idée, quoi.
Ok.
Pas super.
Un réseau social qui met en avant la presse.
Bon, allez,
maintenant, ils ont déjà testé ça. C'est
des statuts longue forme. Ouais.
Non?
Des statuts longue forme.
Statuts longue forme,
ah ouais,
l'enfer.
T'es obligé d'écrire en plus de 200 caractères.
Voilà, si.
Plus de 200
exactement.
Mots.
Mais c'est une plateforme de blog, en fait.
Ouais, ça serait Medium.
Ça serait Tumblr.
Ça serait Medium.
Non, pas Tumblr, ça parle pas. Bon, allez, on enregistre depuis le temps. C'est Sylvain qui va commencer. Et alors là, on va commencer à chuchoter et à remonter l'école d'impair parce qu'on va parler de complot.
Sujet numéro 1.
Tous ces complotistes sur Internet, tendance ou complot?
Coupez vos téléphones. On ne sait pas qui nous écoute. L'histoire que je m'apprête à vous conter se passe à une époque que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Nous sommes au début des années 2000 et nous troquons nos modems 56K contre des offres ADSL 20 heures gratuites sur des CD AOL que nous volons dans les boîtes aux lettres de nos allées. Vous l'avez tous fait, ne niez pas. J'ai à cette époque un camarade de classe très, on va dire, alternatif, pas seulement parce qu'il écoute du métal, avec qui j'explore les immenses contrées du web et on se fait découvrir mutuellement des trouvailles de la toile parce qu'on est en pleine exploration. Et cet ami, vous allez vite le comprendre, il est très enclin à se passionner pour tout ce qui ressemble de près ou de loin à des cultures dites souterraines, ce que l'on peut appeler l'underground, comme notre ami Clément Le No Life. C'est ce jour-là, après que cet ami m'ait envoyé un lien, que je les ai rencontrés pour la première fois. Reconstitution. Quand j'ai cliqué sur le lien, je n'ai pas vraiment compris où j'étais. Il y avait des triangles partout, des yeux qui m'observaient et une planète. Je crois que c'était la Terre. J'étais un peu excité. J'ai découvert des théories très convaincantes sur les gens qui nous gouvernent vraiment. Illuminati, francs-maçons et sociétés secrètes. J'avais face à moi un objet numérique assez singulier qui m'en faisait voir de toutes les couleurs. Il s'agissait là d'un site de complotistes. Oui, vous l'avez compris, en ce moment, je tourne un documentaire sur ma vie qui sera diffusé sur RMC Découverte entre Pêche Extrême, les monstres du Mississippi et les pharaons d'Égypte viennent d'une autre planète. Voilà donc ma première rencontre avec des conspirationnistes. Les conspirationnistes, ce sont ces gens qui sont persuadés que le monde est une immense mascarade et que des groupuscules secrets tirent les ficelles de notre existence. Deux caractéristiques pour savoir ce qu'est le conspirationnisme, c'est très simple. Croire qu'un événement n'arrive jamais par hasard, qu'il n'y a aucun accident, donc que tout est lié et que tout est écrit et prévu. Prévu par qui ? Par des sociétés secrètes à de bien sombres desseins. Donc comment on reconnaît un conspirationniste? Comme ça, si vos proches sont malades, vous pourrez peut-être reconnaître leur pathologie. Il est obligé, le conspirationniste, c'est son devoir de tout expliquer par la théorie du complot. C'est ce mec au bar qui finit toutes les conversations par... De toute manière, c'est pas compliqué, hein. Y a qu'à regarder à qui ça profite, hein. Toujours les mêmes, si tu vois ce que je veux dire. Que tu parles d'un attentat à la bombe, du clonage d'une chèvre ou de l'indigestion que t'as eu à Noël, le mec te fera toujours un petit clin d'œil entendu avant de s'enfiler son verre de blanc pour en commander un autre aussitôt. Et sur le web, c'est encore pire. Ils sont partout. Des pages perso.orange.fr fleurissent tous les jours. Des mecs passent leur vie à réuploader des émissions de TV sur YouTube en faisant des zooms, des ralentis, des inversions de couches gamma pour faire apparaître des écailles sur les oreilles de Miss France. Et je parle pas des forums et des groupes Facebook où chacun trouve des interlocuteurs de choix pour soumettre les théories les plus farfelues qui soient. Et le problème, c'est qu'il y a personne pour les contredire puisqu'ils s'encouragent, ces cons. C'est l'escalade. Vous croyez être à l'abri? Vous pensez ne pas fréquenter le même web qu'eux? Vous vous trompez, ils sont dans les commentaires de vos médias en ligne préférés. Ils réagissent sur vos publications Facebook et répondent à vos tweets dès que vous parlez de Charlie Hebdo. Mais pourquoi donc Internet est-il devenu ce terreau si fertile aux conspirationnistes? Je vais vous proposer 4 théories du complot. Première théorie, le web permet l'empowerment. C'est un joli mot pour dire que les gens sont autonomes dans leurs recherches. On l'a vu avec l'attentat de Boston ou l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès, les internautes prennent un plaisir assez malsain, faut le dire, à se réunir en masse sur les réseaux pour participer à une œuvre qui leur apparaît plus grand qu'eux. Enquête et débat, tentative d'accès aux messageries, écumage de profils Facebook, le moindre truc déniché est perçu comme un secret dévoilé. Le problème, c'est qu'à force de chercher absolument des secrets partout, on a l'impression de mettre à jour un complot dès qu'on tombe sur un site un peu bizarre. C'est un petit peu comme votre oncle à Noël qui vous met un coup de coude et vous chuchote. Tiens, toi qui connais bien Internet, l'autre jour je suis tombé sur un site un petit peu underground. On nous cache pas mal de choses, hein. Tu savais qu'Hitler était vegan? Le problème, c'est que ces mecs vont en page 3 de Google et ils ont l'impression d'explorer le deep web ou d'avoir hacké le Pentagone. Donc stop. Deuxième théorie, vos vies sont chiantes. Ouais, ah, oui. Le conspirationnisme.
C'est une théorie qui marche avec beaucoup de choses, quand même.
Ça, c'est sûr. Non, mais le conspirationnisme, c'est quand même un formidable moteur de fiction. C'est pas Fibre qui va me contredire. Entre 13, la BD, Assassin's Creed, le jeu vidéo, un nombre incroyable d'œuvres culturelles se basent essentiellement sur ces théories pour nous faire vivre des aventures hors du commun qui nous changent du quotidien.
Tu sais que tu vas te faire taper par les complotistes. Hein,
exactement.
Après, les féministes.
Ils vont dire qu'on en fait partie.
Ah, bah oui.
C'est ça. Mais oui, bien sûr, puisque tout est complot. Donc, normal que ça nous excite. En fait, quand vous regardez une vidéo YouTube qui vous explique que Michel Drucker est reptilien, ça rajoute un petit peu d'aventure dans votre vie de merde. Troisième théorie, le mythe d'Internet et de la liberté d'expression. Mais bien sûr, se dit-il, si je devais révéler des secrets prêts à ébranler les constitutions de l'ordre mondial, on chercherait forcément à me faire taire. Les journalistes refuseraient de répondre à mes coups de fil et les maisons d'édition à mes mails. J'irais donc sur Internet, puisqu'on peut dire ce qu'on veut. Voilà ce qui se passe dans la tête de votre oncle quand il tombe sur nouvelordremondial.free.fr et qu'il lit qu'on peut communiquer avec les ovnis depuis le plateau du Larzac. Quatrième théorie, les gens sont cons. Ah, Daz. Ah, Daz, ça te plaît, ça. Eh oui, ce sont des Mongoliens. Le terreau le plus propice au conspirationnisme, c'est d'abord la bêtise, la naïveté et l'inculture. Les théories du complot permettent d'avoir une explication très simple à des phénomènes très complexes. Pour comprendre et expliquer la crise des subprimes, qu'est-ce qui est le plus simple ? Lire les échos ? Ou dire ? Qui dit argent, dit banque ? Qui dit banque, dit Rothschild ? Qui dit Rothschild, dit... Enfin, tu vois ce que je veux dire ?
Illuminati !
Et en ça, Internet devrait œuvrer à inverser cette tendance. Parce qu'il donne accès à des connaissances et des moyens pédagogiques qui sont plus facilement consommables et qu'il est plus facile de comprendre les phénomènes par leurs preuves et non par leur absence de preuves, qui est ce dont les conspirationnistes se nourrissent. Et je pense d'ailleurs que la croyance qui veut qu'Internet rende les gens plus conspirationnistes est fausse. Je pense que c'est un complot.
Oh là 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 là. Donc en fait,
quelle fin.
La métachronique, c'est ça.
La métachronique, tout à fait.
Le complot dans le complot. On se croirait dans cet épisode d'Az mythique de...
Community.
De Community, avec ouais. Le professeur Sten, qui était un prof de complot. Sten.
C'est ça, un prof de complot.
Donc là, en fait, t'as essayé de mettre à jour le mode de fonctionnement des complotistes, ou est-ce que tu as essayé de nous enfumer l'esprit pour...
Je vous enfume l'esprit parce que je vous ai dit que Internet était un terreau très propice aux conspirationnistes, alors qu'en fait, je pense que c'est l'inverse. Et qu'il éduque les gens, Internet éduque les gens à ne plus croire à ces théories farfelues et fumeuses.
Mais c'est vrai qu'on trouve quand même, si tu commences à taper YouTube 9/11 complot, tu peux trouver des centaines de vidéos où un mec va t'expliquer que la manière dont l'immeuble s'est écroulé montre que c'était forcément...
Il y a beaucoup d'ingénieurs en bâtiment. Hein.
Ouais. Alors, tu veux dire que c'était un inside job en septembre, je suis d'accord avec toi.
Oui, comme tu disais, Daz, sur Internet, les gens sont tous un peu des experts dès qu'il se passe quelque chose. Donc ils sont des experts en récupération de boîtes noires, ils sont des experts en terrorisme, ils sont
en plein de trucs, ouais.
Est-ce que tu penses que c'est aussi le fait qu'on doit toujours ouvrir sa gueule qui fait qu'en fait les gens cherchent des explications et que ça nourrit, comme dirait Sylvain, cette sorte de terreau de théorie farfelue?
C'est se dire en fait, tiens, moi j'ai vu un truc que personne d'autre n'a vu. Ou alors je vais le dire avant que les autres le voient.
T'as l'impression d'avoir l'exclu parce que t'es allé sur une page.
Regardez, c'est pas les mêmes rétroviseurs, regardez.
Mais il y avait un deuxième tireur.
Ou un troisième.
Internet a accentué ça. Parce que
c'est pas qu'Internet a accentué.
Les complotistes ont toujours existé.
Non mais Internet a créé ça en fait. Parce que les complotistes avant ils complotaient dans leur coin. Non mais il fallait rentrer dans des cercles de joueurs d'échecs et des trucs un peu obscurs comme ça, un
ou
peu fumeux.
Ou PMU quoi.
C'est ça que je pensais.
On pensait pas qu'il y avait des mecs genre les Lone Gunmen de X-Files là, qui étaient quatre dans leur caravane.
Oui mais voilà, ils étaient quatre dans leur caravane en fait. Je pense qu'il y a quand même, si on fait le distinguo en fait entre les complotistes, je dirais legacy, les complotistes genuine, les vrais, et toute la, enfin tous les gros noobs,
les footix du complot,
c'est vraiment depuis YouTube en fait que maintenant on peut partager des émissions à la con qui passaient sur RMC 74 et des choses comme ça, si même c'est passé sur une chaîne française d'ailleurs, parce qu'il y a des trucs, j'ai l'impression que c'est sorti directement en VHS en fait. Je parle de VHS, pas de support numérique.
Mais même avant les VHS, on a quand même des journaux comme Le Point et L'Express qui, quand ils se font chier, hein, comme tu dis, c'est la théorie numéro 2, quand tu te fais chier dans ta vie, ils nous sortent le marronnier.
Sur les francs-maçons.
Les francs-maçons les francs-maçons de ce que tu veux.
Sylvain, je trouvais qu'il manquait une petite rubrique dans ton truc, il y avait les provinciaux. Alors peut-être que ça croisait, avec les Mongoliens parce qu'on parle du désœuvrement, etc. Et finalement c'est voilà. Et il y avait en deuxième
De construire une émission qui est fédératrice.
Mais c'est le cas.
Il faut les
provinciaux. On est tous le provincial de quelqu'un d'autre. Sachez-le. Et il manquait aussi les gens de droite.
Ça c'est la théorie de Fibre.
Ah, c'est quoi ta théorie Fibre du coup sur la question?
J'ai plein de choses à dire sur le sujet.
Je sais. De toute façon Fibre, il a toujours préparé tous ses devoirs.
Là j'ai pris des notes effectivement.
Et je vous dis, il laisse pas les gens copier sur lui après.
Oui.
Genre des mecs au contrôle, il y a un livre entre toi et lui quoi.
Alors la première chose c'est que les complotistes déjà, ils sont dans une impasse, c'est-à-dire que si t'es d'accord avec eux, ils sont contents, et si t'es contre, ça les persuade qu'ils ont raison. Parce que t'es dans le complot, tu vois, t'es leur ennemi.
Donc c'est une mécanique qui va que dans un sens.
Voilà,
quel que soit le sens dans lequel tu vises, ça s'enfonce.
Oui, c'est ça, parce que tu leur apportes une preuve, ils te disent, bah non, justement, elle est falsifiée. Et toi, tu lui dis, mais t'as pas de preuve. Et là, il te fait, bah ouais, justement, j'ai pas de preuve. Ça veut bien dire que tu vois. Putain, merde, quoi. C'est plus possible, tu vois.
Alors ensuite, concernant le complot, c'est tellement dur de faire un goûter d'anniversaire, de faire une émission 404. Mais vous vous rendez compte comme c'est compliqué de faire un attentat et de faire croire que c'est un autre personne et qu'on sait jamais. C'est hyper compliqué. C'est vraiment des gens qui font pas des choses simples et qui s'aperçoivent pas de la difficulté des choses. Donc, je pense que le complot, c'est vraiment, effectivement, c'est plutôt de l'ordre de l'oisiveté. C'est-à-dire, moi, si j'étais puissant, je serais complotiste. Enfin, je ferais ce type
d'accord.
de complot.
C'est vrai que les chercheurs spécialisés disent, les complots qui réussissent, il y en a très peu, en fait. Donc du coup, les vrais complotistes ne réussissent pas leurs œuvres. Donc de toute façon, c'est tellement dur que c'est impossible.
Mais si ça réussit, tu ne le sais pas.
Attends, j'ai encore une toute petite chose. Voilà. En fait, moi, j'ai une autre théorie. J'ai de la métaphore du fantôme.
Métaphore.
Voilà, c'est que les gens ont peur des fantômes.
Ouais.
Et je trouve qu'en fait, on devrait avoir peur qu'il n'y ait pas de fantômes. Parce que si vous avez, s'il y a des fantômes, ça veut dire que quand vous êtes mort, vous vivez quand même un petit peu. Tandis que s'il n'y a pas de fantômes, ça veut dire que vous mourrez pas du tout. Pense que les complotistes sont des gens très angoissés et ils ont peur que le monde n'ait pas de sens. Donc, ils mettent des engrenages un peu partout. Ils disent, mais voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et enfin, bon, c'est pas très bien. Et pour être persuadé qu'ils sont un peu en raison, dans un petit peu que leur théorie est forte, et bien ils disent que
ce sont des gens
qui sont
des méchants. Comme disait Sylvain, des malheureux dans leur vie qui créent une sorte de ordre supérieur qui leur permet de projeter des fantasmes et frustrations.
C'est des gens d'extrême droite, ça. Ouais. Il vient de décrire l'extrême droite en 3 secondes.
Toi, t'as attaqué tout le monde aujourd'hui. La droite, l'extrême droite, la province, tout ça.
En général,
le PACA, il va pas être content. On va pas faire des super scores.
Une mini chose, et après, je laisse la parole à tous ceux qui voudront parler.
Ouais.
C'est que le web, il a eu tendance à diminuer les théories du complot. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont contredit entre eux, c'est-à-dire c'est la CIA qui a fait les tours du 11 septembre, mais non, c'est les reptiliens, tu vois. Et donc en fait, ils sont tous
un peu comme le Gamergate, quoi. Les mecs sont tous un peu tirés dans les pattes.
Et voilà, c'est ça.
Donc ça s'est effondré.
Ils ont pas pu marquer ce genre d'une pierre blanche, puisque Fibre est d'accord avec moi. Ça, c'est beau.
Mais ça, toi qui du coup normalement publie des choses sérieuses et fondées, est-ce qu'il y a des fois où vous êtes à la limite, où vous dites, est-ce que cette théorie est farfelue, mais quand même elle est publiable ou elle mérite de.
Non, ouais. Mais ça veut dire qu'on n'a pas de preuves. Et qu'on se dit,
exactement.
Ah, peut-être.
Non, est-ce que vous pouvez être dans l'assertion ? Est-ce que vous pouvez être dans la.
Non, tu fais jamais ça. Ah bon ? Les faits, là, rien que les faits.
Bah ouais,
je dis pas, ah bon. Cela dit, j'ai compris.
Ne dis pas, ah bon, je te défonce.
J'ai modéré les commentaires de 20 minutes.
Et en fait, pendant... C'est ça, tes cicatrices dans le dos, comme ça ? Les traces de fouet, c'est.
Et en fait, je lisais des pages et des pages de commentaires certains jours. Et en fait, le gros problème des complotistes sur Internet, c'est qu'ils sont obligés d'écrire beaucoup. Et en fait, ils écrivent très mal. C'est-à-dire que je les lisais, je pouvais.
Vraiment, ils n'ont aucune qualité, ces mecs. Depuis tout à l'heure, tout le monde.
Il y a des jours où je me dis, je vais essayer de comprendre ce qu'ils veulent dire.
Ah ouais.
Et donc, je lisais et je relisais. Et en fait, tu comprends que dalle à ce qu'ils disent la plupart du temps. Ils
ne
sont pas clairs, ces gens. Ils ne sont pas clairs. Sont donc,
pas
en fait, ils disent, oui, c'est comme ci, c'est comme ça, mais tu ne comprends pas où ils veulent en venir. Ça n'en finit jamais. Donc, c'est aussi un échec pour eux d'avoir à écrire, en tout cas.
Ils n'ont aucune qualité, même un peu de fanfiction, d'imagination, de choses comme ça. Moi, je suis très fanfiction ce soir.
Mais c'est vrai que Fibre n'avait pas tort sur le truc de la frustration et de que les choses soient réglées parce que ça leur fait peur. En fait, c'est des contrôles frics. Ils ont peur de l'aléatoire, ils ont peur du chaos, ils ont peur de l'accident.
T'as dit chaos en prononçant le S ?
J'ai dit chaos, putain, mais je sais jamais comment il faut le dire.
Tu vas chez Amonix ou tu vas au CERF ?
Je sais pas, dans ma boîte aux lettres, il y a des prospectus.
Ça
va. Fermez votre gueule. Et donc, ouais, je pense que c'est des contrôles frics. Ils veulent que tout ait un sens, ouais, effectivement.
D'accord.
Mais c'est pas contrôle fric, ça ?
Si, parce que.
Vouloir que tout ait un sens,
non.
Vouloir que tout soit à sa place, oui.
En fait,
mais...
ouais, ce qui leur échappe, oui, que tout soit à sa place, que tout soit fondé, que tout soit prévu.
L'ami Fibre ici qui met sa vie sous Excel, c'est un contrôle fric.
C'est vrai.
Mais pour prendre une métaphore encore actuelle.
Dis donc.
Dans 50 nuances de gris, par exemple.
Aïe, aïe.
Le mec domine la fille, mais la fille peut dire non à n'importe quel moment. Et le complotiste, c'est le mec qui peut dire non. Il y a un complot, mais je le vois, tu vois. Et donc, il a l'ultime contrôle.
J'ai pas compris la métaphore.
Il fallait qu'on passe une 16 degrés. C'est pour le SEO. Il faut mettre des tags. Bon, il faudra le mettre dans l'URL. On n'a pas le choix. Allez, on s'arrête sur 50 Shades of Grey.
Comme on a commencé.
Moi, je pense qu'il y a un complot des BDSM. Une question de Harrison Banks. Je sais pas, c'est peut-être un pseudo. C'est peut-être un complotiste. Je ne sais pas. Il nous demande, seriez-vous prêt à remplacer un organe sain et valide de votre corps, un bras, des jambes, une main, par un équivalent robotisé, plus performant et fiable ?
On n'a pas déjà eu ça ?
Si, 6 fois.
Transhumanisme.
C'est vrai, on a déjà eu 6 fois. 6 fois.
Je me suis vu alors.
Non, moi je serais capable de sacrifier un œil, je pense.
Un œil ?
Ouais, un œil.
Juste un œil alors.
Un œil, bah oui, j'aime bien garder quand même.
Ah, donc on la garde là, la FAQ là.
Ouais, moi,
ouais, on part dessus.
Allez,
ouais.
Ok. Cool.
Après, j'ai des questions que pour Daz, alors du coup, c'est pas assez rigolo.
Ok, d'accord.
Un œil aussi, moi.
Un œil aussi,
pour
Mélissa.
Pour avoir la réalité augmentée.
Ah, un œil pour avoir la réalité augmentée.
Il suffit d'avoir un smartphone Google.
Non. Daz, tu remplaces quelque chose ou tu serais 100% bio, 100% vegan, bio. 100% real bio.
Non, le cerveau, ouais.
Le cerveau carrément, en toute simplicité.
Oh, c'est ouais. T'aveu
même pas une... Non, mais pour avoir un vrai truc, tu vois, où tu peux classer les fichiers, etc., pour rien oublier, pour... Ouais, faire un truc un peu plus organisé.
Classer,
que...
quoi, pas pour être plus intelligent, juste pour...
Mais non, mais ça sert à rien. L'intelligence, c'est totalement et singulièrement inutile.
Okay. Tu sais que ta femme te regarde et qu'elle a peur, là. Elle est dans le
non,
public,
mais cerveau,
est...
ça va, j'aurais dit autre chose.
Bon, voilà. Non, cerveau, c'est juste le cerveau.
Le cerveau, c'est cool.
Bon, allez, contrôle le sub, Daz. Fibre.
Eh bien, tout ce qu'on a nous autour de nous, la technologie, les iPhones, tout ça, c'est un peu pour se la péter.
Les iPhones, c'est le nouveau...
Upload, chaos, iPhone, ce voilà. Soir.
C'est pour se la péter un petit peu notre compte Twitter, tout ça. C'est un peu pour avoir un statut social. La technologie nous aide à avoir un statut social. Et si on a la possibilité de changer nos organes, et si tout le monde le fait, bah, l'ultime élite, ce seront les gens complètement bio. Donc il vaut
tu veux
mieux.
Dire, c'est comme les gens qui n'ont pas de tatouage.
Voilà, je vous invite à ne pas le faire. Bah, y a beaucoup de gens qui n'ont pas de tatouage, donc c'est pas pareil. Mais c'est-à-dire, si vous êtes 100% bio, c'est...
Toi, 100%
vous investissez pur. Dans l'avenir.
100% hipster, élite. En fait, c'est ça le...
Oui, bah, alors, il faut bien Poujadiste et ce soir c'est Fibre.
Pourquoi ce soir hein.
Allez, Fibre il va prendre d'ailleurs le relais sur la deuxième chronique.
Ghislain dit non.
C'est vrai
Ghislain dit non.
Ah mince, on s'était...
Ah
on a fait le mauvais ordre.
Plus tard, okay. Plus tard, cher public.
Sujet numéro 2.
Guide du bon usage des médias web pour les politiques.
Donc Mélissa, qui je le rappelle est bloquée dans cette chambre rouge entre Fibre et Ghislain. Comment ça va Mélissa?
J'ai un plan.
Ah, t'as un plan.
J'ai un plan.
Dire.
Pas pour sortir de la chambre rouge, malheureusement. C'est con. J'ai un plan pour les politiques. Tout a commencé quand j'ai regardé cette vidéo de Barack Obama il y a une semaine précisément.
Qui a fait le tour du monde.
Qui a fait le tour de l'internet. Si vous étiez dans une grotte, en fait, c'était donc une vidéo postée sur la page Facebook de BuzzFeed où Barack Obama fait des trucs assez cons, genre sourire dans un miroir, répéter un discours, exercer son shoot de basket et se prendre en selfie avec une perche à selfie.
Un selfie stick.
C'était vraiment tout l'intérêt de cette vidéo. Et en dessous, il y avait un petit lien healthcare.gov. Ouais. C'était une grosse pub, en fait, pour sa réforme de la santé.
Il fait le tour de tous les médias à la mode pour le faire. Il recule devant rien.
Je dirais pas une grosse pub, mais on en reparlera.
Une petite pub.
En tout cas, Obama, ouais, a joué le jeu à fond.
Voilà, donc ça, les mecs, c'est Obama 2015, version augmentée de Obama 2008, le mec qui avait quand même créé un réseau social pour organiser des meetings pendant sa campagne en 2008 et qui avait donc été élu. Ça avait marché, en gros.
Oui.
Alors à 404, on s'est dit, mais quel serait l'équivalent dans notre beau pays en France ? Est-ce que François Hollande irait faire des blagues sur Malti ?
Oh, ça serait tellement beau.
Et là, on a pensé, ça serait vraiment la honte.
Ah bon ?
Déjà, quand l'UMP faisait des lip-dub, on se foutait de leur gueule.
C'est vrai.
Et donc là, on se dit, bah, ça sert à rien d'essayer de prendre des vidéos virales et de les reproduire en France, parce qu'en gros, ça va pas trop marcher. Et il y aura toujours un putain d'électeur pour vous dire, les politiques n'ont pas à faire ça. Hein. La France ou l'archaïsme. Mais alors que faire, me direz-vous ? Comment faire passer notre message ? Comment est-ce que les politiques peuvent nous parler à nous, internautes ? En tant que formatrice Studio 404, à 5000 euros la journée, voici ma présentation en 7 slides.
Tu sais que tu rigoles, mais il y a vraiment des formateurs réseaux sociaux qui prennent 5000 la journée.
Ah, mais je suis sûr.
Tu sais que tu rigoles, mais on va le faire pour de vrai.
Sylvain a un plan. Je vous la fais gratos parce que Studio 404, c'est l'émission du partage.
Ah, c'est sympa.
Petit 1. Avoir une street cred sur internet. Déjà les mecs, si vous n'avez pas débarqué sur les réseaux sociaux de votre plein gré, on a un vrai problème.
C'est clair.
Il y avait à peine NKM et Benoît Hamon sur Twitter en 2009 et Mélenchon a toujours eu un blog. Ouh. À part ça, c'est un peu le désert quand même. Donc le mieux en fait, si vous voulez faire passer un message, bah, c'est juste de le faire vous-même et pas de passer par un assistant ou un conseiller qui va faire des tweets hyper chiants avec des photos de vous dans des meetings qui sont à peu près toutes les mêmes sur tous les comptes Twitter.
Juste à 20h pour la galette des rois de
ça, putain, mais unfollow total tout de suite. Donc votre message, on le lit pas. Testez tous les nouveaux outils avec précaution. Par exemple, l'Instagram de Christian Estrosi, je ne qualifierais pas ça de précaution. C'est un malaise total. Ou alors le Vine de François Hollande, aussi beaucoup de moments malaise en 6 secondes.
Hein. Ah ouais, le Vine de François Hollande.
Belle perf. En revanche, acceptez le selfie si on vous le demande, travaillez bien votre sourire. Je pense que ça peut toujours marcher.
Et là-dessus, François Hollande, il est pas mal, non ? J'ai l'impression
qu'il se prête bien au jeu, mais je pense que Jacques Chirac aurait été vraiment bien meilleur.
Ah ouais.
J'aurais vraiment voulu plein
mais
de...
Jacques,
je pense qu'il doit y en avoir un peu sur internet. Je creuse ce sujet.
Jacques Le Swag.
Il y a Macron qui est pas mal sur les selfies aussi.
Ouais, c'est vrai,
j'en ai vu un, putain. Ouais, ça marchait pas vraiment. Bref, deux, aller sur tous les sites et réseaux. Alors oui, il faut tester tout. Pour ça, vous prenez un conseiller qui va vous faire ça. Et comme ça, vous n'aurez plus jamais l'air d'un gros noob. Donc, quand il y aura un petit con qui vous dira « Vous avez un compte Vine ?» Vous direz « Oui, je sais ce que c'est Vine. » Et ça, un jour, ça pourrait vous rapporter des voix, en fait. Vous voyez le jour où,
fou, hein.
où une jeune femme dirait « Comment, monsieur Hollande, vous regardez toutes les vidéos d'Enjoy Phoenix ? Ouais, je suis trop cool, je vais voter pour vous. » Si ce jour arrive, je me suicide, mais j'y crois vraiment.
Mais ça va arriver.
Mais je suis une vieille conne, parce que je pleure devant des tutos beauté de petites filles de 5 ans. 3, allez sur YouTube. Obama l'a fait il y a un mois, je crois. C'était pas drôle du tout, j'ai regardé, je me suis tapé la demi-heure d'interview avec les youtubeurs et en fait ils ont été plus sérieux que des journalistes quoi. Il y a aucune blague, ils parlent politique.
Le truc c'est qu'en gros Obama après son discours de State of the Union s'est fait interviewer par des youtubeurs très connus. Ouais, un peu comme si du coup Enjoy Phoenix ou Cyprien interviewaient M. Hollande. Rigolez pas. Non, mais...
Sauf que
pas rigoler, c'est intéressant.
Monsieur le président, je sais pas si vous avez remarqué mais
non mais c'était hyper sérieux, du coup c'est con quoi, faudrait pas faire ça. Donc moi en fait je prendrais une humoriste française, Nora Hamzaoui, mais bon, vous avez peut-être d'autres idées.
Oh, la pub déguisée,
peut-être que les mecs de Golden Moustache pourraient faire ça un peu
double
bien.
Double pub déguisée.
Attends, c'est tes potes, hein, pas les miens.
Ce serait intéressant, du coup, effectivement, comme tu dis, qu'ils interviewent M. Hollande.
C'est ça. Et François Hollande, en fait, est hyper bon en blague.
Oui.
Et peu de gens le savent.
Ça, c'est dommage.
Et c'est quand même un peu dur, parce que, par exemple, au vœu cette année, enfin, il a fait aucune blague, alors qu'en fait, en général, il en place toujours une petite. Et ça détend un peu l'atmosphère. Là encore, il y aura toujours un mec pour dire « mais c'est pas son rôle de faire des blagues ». Et là, on fait « mec, va réviser ton LOL un peu, s'il te plaît ». Ensuite, les médias sur Internet. Alors, je sais pas s'ils ont entendu parler des pure players, les politiques français. Pas trop, a priori.
C'est un mot anglais, attention.
Comment une prêche, je pense à Parois.
La dernière fois qu'on a interviewé François Hollande sur Slate.fr, c'était avant la campagne et c'était que sur l'international. Depuis, on l'a pas revu, quoi. C'est François Hollande, si vous voulez, on vous attend. Non mais en vrai je lirais bien une grosse interview de François Hollande par Street Press ou par Vice.
Oh, par Vice.
Qui sont des médias qui là iraient vraiment le chercher. Et à la fois ce serait sérieux et en même temps, enfin vraiment, je pense que le mec pourrait pas répondre des trucs bullshit parce qu'il dirait mais mec tu nous bullshit. Et on pourrait vraiment aller plus loin si le mec allait sur Reddit. Mais franchement, qu'est-ce qui l'en empêche de le faire aujourd'hui quoi? J'ai une solution pour
Hollande,
vous, monsieur François Hollande.
Ce serait très beau.
Un petit amas de François Hollande tout de suite, ça nous prouverait vraiment qu'il sait ce que c'est qu'Internet.
Il est sur Elite Dangerous.
Il ressemble à quoi? Autre chose, avoir travaillé sur Internet, ça peut aider. Parce qu'en fait, à part Axel Lemaire qu'on avait reçu dans 404 et vous, personne ne s'est parlé d'Internet. Donc je vous en parlais la dernière fois quand on était ici même. Tout le monde dit oui, il faut surveiller Internet. Et même notre premier ministre, notre ministre de l'Intérieur, tout le monde dit surveiller Internet. Ça veut rien dire les mecs, c'est vraiment débile. Donc 2015, c'est l'année où il faudrait qu'ils réalisent qu'Internet est une société. C'est tout l'objet de cette émission.
Une société secrète.
S'il vous plaît, réalisez ça. Ou alors, je sais pas, ayez bossé dans une start-up à un moment, sachez comment ça marche Internet. Parce qu'en fait, les gens qui votent pour vous aujourd'hui, ils passent 10 heures par jour sur Internet. Donc si vous dites des conneries comme ça, ça va pas être possible. Encore que Fibre nous parlera de ces gens qui croient qu'ils sont sur Facebook et qui sont pas sur Internet. Donc,
ouais, ça c'est un grand moment.
Chez Formation 404, je sais pas Sylvain si tu valides ce titre.
On va bosser le branding, y a pas de problème.
Formation 404, la formation qui n'existait pas en gros.
On propose une petite formation à Internet avec des mots-clés Edward Snowden, 4chan et Snapchat. Voilà. C'est un petit plan. Et puis une dernière proposition, c'est de laisser la place aux jeunes.
Ah.
Étant donné qu'on est en France, ça n'arrivera absolument jamais.
Bah oui, c'est ce que j'allais dire. Mais
Axel Lemaire, si elle réussit si bien, c'est aussi parce qu'elle a un petit jeune derrière elle. Enfin, il est plus si jeune, mais il s'appelle Émile Josselin et c'est un vrai mec de l'internet.
Ouais. Big up, big up.
Qui traîne avec nous et je pense que c'est pas anodin si Axel Lemaire parle.
Mais on avait vu que
toutes les conseillers
numériques un peu de François Hollande avaient aussi la trentaine et ça n'a pas réussi partout.
Oui, mais je pense qu'à l'ENA, ils n'ont pas trop de formation Internet.
C'est vrai qu'à l'ENA, ils ont 30 ans, mais en fait, ils en ont 50.
Ils ont plus une formation réforme de la santé.
C'est clair. Bon, alors du coup, tu penses qu'ils vont nous écouter?
J'espère. Après, je propose pas la révolution, j'en ai bien conscience, mais si déjà ils faisaient ça, ce serait déjà un gros plan, quoi.
Si on résume tous tes slides et tes conseils de formation 404, en gros, c'est quand même beaucoup de... Apprenez, à découvrir Internet, à l'accepter comme quelque chose de crédible, à le vivre.
Ouais, connaissez
et
Internet.
Et allez-y après, naturellement.
Connaissez Internet parce que t'as encore l'impression que c'est vraiment juste un endroit ou un média, tu vois. Comme il y a la télé et la radio.
Oui.
Alors que c'est au-delà de ça, quoi.
Bien sûr.
On a Internet dans la main toute la journée.
Alors toi, Das, qui est deuxième formateur 404, lui, ouais. C'est un peu le mec qui tape les mauvais élèves.
C'est nul.
Au collège, t'as le troisième E, c'est la troisième un peu spéciale, avec moins d'élèves un peu chelou.
Le troisième E chez nous, c'était justement la bonne classe.
Ah bon, d'accord.
C'était okay. A qui parlait pas français.
D'accord. Est-ce que t'es du cri un peu tiré au chalumeau pour dire bon, bande de connards, ou est-ce que tu penses que ça va se faire en douceur, il faut les accompagner?
Pour moi, c'est des outils qui sont pas de leur génération, donc ils ont juste pas appris à les utiliser. Donc enfin, je pense qu'il faut pas les forcer. Ouais. Si vous vous rappelez ce qu'on disait avec Axel Lemaire, n'est-ce pas, quand nous l'avons interrogé, qu'elle est venue, on lui disait qu'on n'arrivait pas à faire la différence entre le pur calcul et la pure sincérité, parce que toi tu dis qu'elle se débrouille bien, machin, etc. Moi, je suis désolé, mais enfin bon, bref.
un petit peu de théorie du complot là.
Non, je pense simplement que c'est pas son taf, enfin c'est pas son truc, c'est pas voilà.
Attends, elle est secrétaire d'État au numérique.
T'as vu comment elle s'est fait rabrouer par Manu? Manu la malice, Manu le malin. Ouais, t'as vu comment il lui a dit, bon Axel, s'il te plaît, tu fermes ta gueule maintenant.
C'est pour ça que Manu doit venir à la formation.
Mais non, parce qu'en fait, je pense que quand t'es Premier ministre, Internet, t'en as juste rien à foutre en fait. Parce que
tu penses qu'on peut encore en avoir rien à foutre d'Internet,
c'est un problème, ça.
Mais moi, je suis d'accord avec Mélissa, c'est un problème.
Si tu regardes les conseils que Mélissa donne, no offense, but still, c'est vraiment que du paraître. Je veux dire, je sais pas, t'aurais pu dire par exemple, essayer d'avoir un vrai programme et d'utiliser Internet pour promouvoir vos idées. En fait, non, c'est juste faites des selfies, prenez-vous en photo, faites comme Obama.
C'était communiquer. Allez sur tous les outils pour communiquer.
Oui, mais communiquer quoi? Communiquer toi-même, non? Communiquer les idées, c'est le principe de la politique. J'ai tapé sur la table. Non, mais voilà, enfin, c'est.
Non, mais là, on parlait vraiment. Mais là, on parlait vraiment de com. Vraiment de la com au sens
où... Oui, mais je pense que si le propos est bien tenu, eh ben, la com, ça va aller autour et je veux dire, ça marchera tout seul. Regarde le prix Nobel d'économie.
Pour que je puisse le mettre dans la slide de la prochaine formation, c'est qu'il faut une stratégie de contenu avant une stratégie social media.
Oh, exactement.
Oui.
Exactement. J'ai pas compris cette phrase, mais je sais que c'est vrai.
Fibre.
Déjà, je propose le nom 404-101. Qu'est-ce que vous en pensez?
404-101
101 pour les apprendre les...
Oh là là, 404-101. Ah, pas mal.
Bon,
trop de chiffres.
Sinon, je trouve que les politiques français sont pas mauvais sur Internet.
Alors, Fibre, t'es pas d'accord. Tu trouves qu'il y a des gens qui sont pas mal?
Je trouve qu'ils ont... Il y a tout un spectre d'outils qu'ils utilisent très bien. Juppé ou Cahuzac, quand ils ont...
Le Minitel.
Ils ont utilisé plutôt le blog plutôt que le réseau social.
Juppé a eu un blog qui était pas mal. Voilà. Il a eu un blog qui était pas mal.
Mais c'est pas lui qui écrivait, on est d'accord.
Mélenchon...
Si, parce qu'il était au placard.
Mélenchon, les hipsters parisiens étaient quasiment sûrs qu'il serait au second tour tellement il explosait tout sur les réseaux sociaux, alors qu'en fait, rien du tout. Donc, ils utilisent plutôt bien. Et au contraire, moi, je trouve que Obama... Enfin, moi, je suis hyper choqué par ce qui s'est passé par Obama, parce qu'Obama est titulaire d'un prix Nobel de la paix. Mmh. Il a eu. Il se passe des choses très graves en Ukraine et en État islamique. Je veux dire, on a des gros problèmes en ce moment au niveau international. L'Amérique qui a fait fanfaronner pendant 20 ans maintenant, on l'entend plus du tout. Et Obama est sur BuzzFeed. Il y a un gros problème.
Que ce qu'a fait Obama est une bonne chose. Hein. Je conseille pas à François Hollande de faire exactement la même chose.
Ah. Voilà. Mais justement, en François Hollande, il y a une crise intérieure et extérieure en France. Donc
tu penses que c'est presque choquant qu'Obama fasse, parce que c'est...
Je suis choqué.
Après, Obama,
c'est grotesque.
Non, mais après Obama, on revient dessus. C'est très calculé. Il fait une campagne de séduction pour le système de la réforme du système de santé, le site de la sécurité sociale pour tous, et il a fait effectivement, il a fait BuzzFeed, mais il a fait YouTube, il a fait je sais plus ce qu'il a fait encore,
il a fait Medium.
Non, mais s'il se passait pas tout ce qu'il y avait dans le monde, ça aurait été Obama cool guy, il est bien, CQ c'est bien, tout ça. Mais il y a un contexte extérieur qui est très très grave.
Mais donc ça veut dire aussi que tu penses qu'Internet est moins...
on peut pas
important.
On peut pas aller sur Internet que pour le lol, quoi.
On peut pas rigoler tout le temps, voilà. Oui. Et là, à ce moment, quand on est président des États-Unis,
comme dit Sylvain, quand il était sur Vox ou sur Medium, c'était très sérieux. Sur Vox, c'était d'ailleurs des vidéos extrêmement bien produites où il y avait des questions assez claires et c'était très très bien fait. Et sur BuzzFeed, enfin, ce qui est assez intéressant, je pense, sur cette campagne d'Obama, c'est qu'il a respecté à chaque fois l'ADN des sites sur lesquels il a été. Et que sur BuzzFeed, il n'allait pas faire quelque chose de sérieux, et sur Vox, il n'allait pas faire l'andouille.
Tu veux dire qu'il a fait du native advertising? Je suis là pour faire les slides, moi, les gars, il n'y a pas de souci.
S'il y avait eu 20 soldats français morts au Mali, et que le soir même, il se faisait interviewer par Cyprien sur YouTube Hollande, il y aurait eu un problème, il se serait pris une tempête, et c'est ce qu'a fait Obama finalement. Donc, il y a une erreur grave. Mais Obama, il est en mode YOLO parce qu'il s'en fout.
Il sera jamais réélu.
Bah oui. Il sera pas réélu. C'est la droite qui va repasser.
Pour rejoindre Mélissa sur un truc qui est assez intéressant et symptomatique de notre époque, et peut-être que c'est justement ça que les politiques français ne comprennent pas, c'est qu'on vient de parler de Vox, BuzzFeed, Medium en disant Obama, il a fait Vox, il a fait Medium, il a fait BuzzFeed. Comme on dirait, Hollande, il a fait TF1, il a fait M6, il a fait Canal+. C'est-à-dire que les politiques américains considèrent les médias tels que BuzzFeed, etc., comme des médias qui ont autant d'importance que les chaînes de télé, par exemple. Ouais. Et ça, en France, effectivement,
très, très
on est très très loin de ça.
Mais c'est comme tu l'as dit assez rapidement dans ta chronique, mais ce qui est important, c'est que la France est effectivement assez en retard et assez archaïque et assez coinceuse quand même là-dessus. C'est-à-dire qu'effectivement, Hollande ne peut pas faire une interview autre part que dans
Hollande,
un grand quotidien national.
Interview, voilà,
mais c'est pas dans notre culture. Arrêtez de penser que les Français,
donc,
c'est
donc toi, tu penses aussi que c'est parce que Obama est un cas assez unique.
Bah parce que Obama, c'est un Américain et qu'ils n'ont pas du tout le même rapport aux médias que nous. Quoi. Donc il faut arrêter de penser que Hollande
peut aller
écrire sur Medium.
Quand tu regardes la proportion de gens connectés en France, je veux dire.
Mais arrête avec cette chimère, Mélissa, dans le Larzac, ils n'ont rien à foutre d'Internet.
On n'est pas dans le Larzac.
Ils communiquent avec les ovnis.
Oui, mais le Larzac vote aussi, ma grande.
Tu sais, à Toulouse, ils ont Internet, à Bordeaux.
Voilà, tu me sors que des grandes villes, mais la France, c'est pas ça. Je suis désolé.
À Tours, ils ont Internet.
C'est bien.
Voilà, ça y est.
En tout cas, ça a quand même bien servi Obama parce qu'il a toujours un électorat qui est très jeune, qui est un qui lui a été fidèle parce qu'il s'est aussi adressé là où cet électorat se trouvait.
À la différence que les autres trucs d'Obama qu'il avait pu faire, les selfies, les machins comme ça, ça avait vraiment fait l'unanimité, alors que là, moi, les premières critiques que j'ai lues sur Obama, c'était des trucs américains qui trouvaient ça indécent et qui n'étaient pas d'accord.
Donc toi, si tu faisais une formation 404, tu conseillerais pas comme Mélissa de dire ok, alors
quoi, du coup,
approprions-nous des nouveaux territoires, allons-y, tu dirais juste
simple. Je dirais premièrement, assurer tout ce qui est communication visuelle. Donc, faites-vous faire des photos par des photographes, dans un jardin, si possible, avec des feuilles par terre, et une robe un peu qui te rend évanescente. Je ne parle pas de Nathalie Kosciusko-Morizet, shootée par on ne sait pas qui, un mec assis autour de cette table.
C'était des belles photos, non? C'était cool.
Oui, c'était très joli. On aurait dit un cyborg, ce qui est totalement
normal. On aurait pas dit un cyborg, mais on aurait dit, un truc d'Heroic Fantasy.
on est en plein délire fanfiction avec NKM, on était là. Elle m'a dit, est-ce que tu peux me le choper de dragon? Je fais, attends. Je vais pas non plus racheter des dragons, là.
Pour revenir au truc, pour moi, le premier conseil, c'est vachement bateau ce que je vais dire, n'est-ce pas? Mais, Juste, trichez pas, quoi. Restez vous-même. Si vous panez rien à Internet, essayez pas de faire comme si vous étiez des...
Du coup, tu rejoins Mélissa qui dit, soyez honnête avec les outils, ne les adoptez pas pour les adopter.
Elle dit, essayez quand même d'avoir un background et d'avoir une street cred sur Internet, parce que bon, Internet, c'est important. Ouais,
non,
okay,
mais
cool.
Faut y frotter. Enfin, je veux dire,
je dis pas qu'il faut
c'est
pas
comme si tu disais, non, la télé, c'est nul. Aujourd'hui, ils peuvent pas dire ça, sur Internet.
Je suis d'accord, je mets ça. À un moment, faut qu'ils y aillent.
Il faut lurker un peu.
Il faut lurker. Ce serait ton conseil. Un énorme sel avec marqué lurker. Le mec dirait lurker.
Je laisse avec ça. Je quitterai la pièce.
Oui, mais donc, un mec qui lurk ou qui lurk pas, tu sais pas, finalement, parce que...
Lurker avant de poster, comme sur
4chan. Je pense à nos auditeurs qui ne savent pas ce que veut dire le mot lurker.
Alors, lurker, c'est...
C'est une expression qui est née sur 4chan pour dire, avant de poster, avant
faut
de
tout,
raconter
tout
de la
lire,
merde.
Faut tout fouiller.
Il faut tout lire, comprendre les codes, comprendre la culture et comme ça, et le langage, et vous pourrez discuter.
Avant de se lancer, effectivement. Donc toi, ce sera un slide lurké. Et Fibre, toi?
Et je laisserai avec ça, comme ça, il sera obligé de lurker pour savoir ce que veut dire lurker.
Just fucking Google it. Et toi, Fibre?
Je surestime pas nos politiques. Je pense qu'ils utiliseront toujours des agences de com, parce qu'ils sont pas bons sur ce plan-là. Et donc, c'est plutôt aux agences de com de bien gérer. Et elles gèrent pas toutes bien, n'est-ce pas, Sylvain?
Oui.
Il faut qu'on lance notre agence de com politique, les amigos. Ou alors, peut-être, l'agence Spin Tank, qui nous accueille.
Native Advertising, ce soir, putain. C'est énorme.
Allez, on passe à la troisième chronique, mais d'abord une petite fac.
F-A-Q.
Une question de Jérémy sur Twitter, qui porte sur Twitter. Pff, c'est totalement méta ce soir. Donc Jérémy, alias @djk_, nous dit, est-ce que Twitter pourrait se passer des photos de profil de ses utilisateurs? Je pense que Jérémy est un lurker et est un stalker aussi, qui aime bien regarder des photos de profil.
Twitter?
Oui. Moi, je m'en fous, mais effectivement, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui draguent et qui aiment bien regarder les profile pics et tout ça pour regarder. Ah, je vois Mélissa.
Bah, évidemment.
Mélissa qui acquiesce silencieusement et très sereinement parce que c'est toute une partie de sa vie, ça, quand même. Mélissa, ça te ferait chier si sur Twitter, il n'y a plus de profile pics?
Oui.
Ah. Tu établis des top 10 des profile pics et tout ou pas?
Non. Il y a des mauvais sites pour faire ça. Non, mais oui, ça changerait tout.
Ah oui.
Ça changerait beaucoup, beaucoup le game.
Ah, mais quel game,
oui,
Mélissa?
De quoi parle-t-on exactement?
De quoi parle-t-on, Mélissa?
Mélissa, dans la chambre rouge, était un petit peu gênée, mais en même temps, un petit peu excitée à parler des profiles pics de Twitter. Elle se retourne. Oui? Donc, parce que dans le game de la drague, tu veux dire?
Bah ouais.
Ah d'accord. Ok, mais c'est important. Fibre, toi qui as le truc, l'eau plate de la profile pic, qui est devenu culte hein, d'ailleurs. Est-ce que ça t'intéresse quoi,
justement la profile pic, je suggère toujours aux gens de prendre des couleurs distinctives de façon à ce qu'on puisse les voir de loin. Bon bref. Mais
tu leur dis de prendre des gilets jaunes ou pas pour qu'à 25 mètres
okay, non version 404
t'as peut-être un petit code RGB à filer à tout le monde là, pour qu'on soit raccord.
Bah couleur primaire mais sinon pour rentrer dans le détail, Twitter il nous donne très peu d'informations pour nous singulariser, biographie, nom, alias, localisation exactement et photo. Qu'il en enlève une ou pas, ça change un petit peu le jeu. Mais quand on est un professionnel de Twitter, on sait que la profile pic,
elle...
ça c'est très important comme terme.
Non, effectivement, quand on est à
404 formations,
il y a que les noobs qui suivent les jolies filles parce qu'il y a une jolie fille sur la pic. Je veux dire, vous savez très bien que souvent ce sont des pièges.
It's a trap.
Alors je vois Sylvain qui lui aussi fait des signes, des petits signes de tête. Est-ce qu'il n'y a que des noobs qui regardent des jolies filles des profils
pics?
Non,
parce que quand t'as leur qu'un peu, tu sais différencier le trap de la vraie photo.
Oui, voilà, c'est ça. Mais même t'as plus besoin de la photo, tu la transcendes à un moment. Tu comprends, tu comprends, elle utilise des points virgules, c'est excitant. Ben,
le tas. Fibre, est-ce que t'es pour ou contre? En fait, tu t'en foutrais ou pas si on retirait cette partie visuelle?
Moi, franchement, pas de problème. J'ai une mauvaise vue de toute façon. Donc,
bon, ok, il s'en fout, Fibre. Sylvain.
Alors, ce qui est très intéressant, c'est que l'identité numérique est liée depuis toujours à...
De tout temps.
Un duo qui est l'avatar et le pseudonyme.
Ouais.
Alors, faire un réseau social qui n'utiliserait ni l'un ni l'autre, voire...
Tu veux dire une vraie photo et ton nom de famille comme Google Plus ?
Non, justement. qui mettrait juste un pseudo, ou alors pas de pseudo, mais juste une photo, je trouverais ça intéressant.
Ah, d'accord.
Mais il ne faudrait pas le faire à Twitter, il faudrait créer un autre truc.
Genre Tinder.
Genre
juste des photos.
Bah photos et prénoms sur Tinder. Non, mais tu vois, un Reddit où t'as juste pseudo, pas de photo, oui. Un 4chan où t'as tout le monde a le même nom et il y a pas de photo. C'est des choses qui sont intéressantes et qui développent des nouvelles façons justement de transcender l'identité autre que par juste l'image.
Très bien.
Il y avait une version de Twitter que un mec avait chopé l'API et l'avait mis sur une page où en fait tout le monde était anonyme, ça affichait des carrés à la place des prénoms. Et c'était assez marrant, t'avais ta timeline comme ça. Fallait essayer de deviner qui était.
D'accord, mais c'était obligé de dire, tu pouvais plus draguer, quoi, en fait.
Ah ouais.
Bon. Et toi, Daz?
Ouais, bah, en fait, je me suis rendu compte qu'on attachait. Enfin, je pensais que les photos sur Twitter, je m'en foutais.
Oui.
Jusqu'à ce que, finalement, dans ma timeline, je vois un type qui avait utilisé de l'image qu'un autre type avait mis en avatar.
Et donc, tu sais,
j'ai
tweeté.
J'ai confondu les deux. Ouais, sans regarder les noms. C'était un truc de Mario, donc les images de Mario qu'on trouve partout. Et pendant un court instant, en fait, j'ai pas compris parce que je pensais que c'était l'autre, en fait.
D'accord.
C'est vrai que finalement, une petite
image. Mais t'as changé ton identité, toi, récemment, en plus.
Ouais, j'ai rajouté le nom qu'on me donne dans Elite.
Et t'as également changé de profile pic.
Oui, j'ai mis un petit policier de Dr. Slump parce que je l'aime beaucoup. Ouais, c'est vrai.
Public,
ouais.
Ça.
Il est attentif. Hein,
ouais, il est très attentif.
Mais,
attentif.
Tu vois, comme quoi, il enregistre Internet. Je m'en fous des profile pics, mais il doit avoir des archives avec des graphes. Genre, celle-là, jamais sur 10.
Théorie du complot.
Bon, allez, on est d'accord, on aime bien quand même les profile pics sur Twitter.
Sujet numéro 3.
Elite Dangerous, le jeu vidéo aussi ingrat et addictif qu'un chat.
Proie cette titraille, on te gâte. Hein,
à chaque fois, j'ai des titres de fou.
Alors, Elite Dangerous, ce jeu vidéo aussi ingrat et addictif qu'un chat.
Le titre
n'est
pas
de
moi.
Les chats te détestent, mais tu les aimes d'amour. Et Elite Dangerous s'en fout de ta gueule aussi, mais tu l'aimes d'amour.
Pour le fonctionnement des titres, des chroniques, en fait, l'âme choisit les titres avant de lire nos chroniques.
Donc souvent,
ça donne des choses un peu marrantes. Voilà.
Non, c'est pas ça, c'est que je dois choisir les chroniques, les titres.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Un moment alors que
les chroniques arrivent très tard.
Alors que les chroniques arrivent 10 minutes avant l'émission, bande de petits connards. Allez, Daz.
Alors bonjour Terry. Si je quitte le cockpit de mon Cobra Mark III, c'est pour vous faire part d'un message d'une importance capitale. Elite Dangerous, c'est bien.
Le jeu vidéo.
Le jeu vidéo Elite Dangerous, oui. Si vous ne le connaissez pas, laissez-moi vous pitcher le principe de ce titre se déroulant dans l'espace.
Frontière de l'infini, vers laquelle voyage notre vaisseau spatial. Sa mission ? Explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies, d'autres civilisations, et au mépris du danger, reculer l'impossible.
Oh là là là.
Vous l'avez reconnu, Fibre tigre à les larmes aux yeux, c'est le générique de Star Trek.
Ouais, j'ai un souple bleu qui m'a poussé sur le torse là.
Merci Gislain. Merci beaucoup pour cet insert. Le pitch donc d'Elite Dangerous, voilà, il y a un petit indice quand même, mais je vais vous le donner. Alors le pitch, c'est aux commandes de votre vaisseau, voilà. Donc c'est pas la peine d'aller plus loin en fait, parce que aux commandes de votre vaisseau dans Elite, vous faites ce que bon vous semble, et c'est ce qui justement vous emmène très 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 loin. Vous pouvez être une saloperie de commerçant ou un contrebandier au grand cœur porté sur le trafic d'esclaves, on en a autour de la table. Vous pouvez être un témoin de Jéhovah du 32e siècle, ça aussi c'est true story. Ouais. Un bandit de grand chemin, un mineur galactique ou un chasseur de primes membre d'une ONG. Ça existe.
Ouais, on a un couple.
On a un couple comme ça dans notre entourage. Les choix de vie qui s'offrent à vous sont multiples et ne sont jamais définitifs. Donc vous pouvez être gentil un jour et une belle saloperie le lendemain. C'est ça qui est génial avec ce jeu. Et pour devenir le nouveau Richard Branson ou le Marlowe Stanfield interstellaire, vous disposez de la Voie lactée, donc notre galaxie, à l'échelle 1.
Ça, c'est le terrain de jeu d'élite. T'as ton vaisseau et juste la Voie lactée.
Alors, l'échelle 1, pour les gens, ça ne veut peut-être pas dire grand-chose, hein, si vous n'avez pas fait d'astrophysique à l'école. Donc, disons que de base, vous avez à peu près 400 milliards de systèmes stellaires disponibles, avec chacun leur ou leurs étoiles, planètes, ceintures d'astéroïdes, stations orbitales, etc., etc. Pour illustrer, il faut juste vous dire que là, au 14 février, donc deux mois après la sortie, les joueurs ont découvert 895 135 systèmes sur ces 400 milliards.
Ce qui est à peu près, mais rien en fait.
Voilà, ça fait 0,00223 de la totalité de l'air de la totalité de l'air de jeu disponible.
Ah oui, 0,00223%.
Pourcent.
Ouais, on rajoute de 0
voilà,
quoi.
Voilà. Et donc pour vous donner une idée, hein, sur l'aspect microscopique de ce chiffre, 0,000223, c'est le QI cumulé d'une trentaine d'anglais dans une rame de métro, la ligne 9. Et alors là vous vous dites, OK cool Daz, mais pourquoi aimer ce jeu? Qu'est-ce qu'il a de plus que Cooking Mama Bon Appétit qui sort le 6 mars? Gros titre de Skills of Cooking Mama. Et là, moi, je dis, c'est une très bonne question. En ce qui me concerne, donc là, Studio 404, c'est toujours les avis perso. Donc moi, en ce qui me concerne, je trouve que l'immersion est assez totale parce que visuellement, ça bute.
Ça bute.
Parce que phoniquement, ça bute. Auditivement, je sais pas comment on dit. Audio-iment, ça tabasse la gueule.
Audio-iment.
Et ça, on va pas se mentir, si le jeu était moche, on n'y aurait peut-être pas joué.
Ah bah, on verra
plus. Parce qu'en 2015, quand même, il faut que le jeu soit un petit peu joli. Ensuite, le truc cool, c'est que y a pas d'histoire. Il y a une trame. Une toile de fond qui explique les tenants et les aboutissants des luttes dans la galaxie, des luttes d'influence entre plusieurs pouvoirs, et qui, cette trame est régulièrement mise à jour par les développeurs, mais concrètement à côté de ça, il n'y a que dalle.
Enfin, on n'est pas obligé de la suivre, quoi, ou de la subir.
Il n'y a pas de scénar, en fait, il n'y a pas de campagne solo, il n'y a rien, donc il n'y a rien que vous, votre vaisseau, les saloperies de pirates qui tournent du côté du système Lave, venez nous voir, c'est rigolo, et il n'y a que ça, et ce que vous avez envie de faire de votre temps libre. Donc il n'y aura pas de coup de fil impromptu de votre cousin Roman d'Europe de l'Est qui va vous proposer de passer le chercher pour faire un bowling.
Ça c'est GTA.
GTA. Ouais. Il n'y aura pas de petite fée qui vous rappelle que le prochain donjon en fait il est à l'opposé de l'endroit où tu vas.
Ça c'est Zelda.
Il n'y a pas de petit trombone pourri qui tapote l'écran pour te rappeler qu'il est là pour t'aider si tu veux.
Salut, c'est Flippy.
Tu joues à Word toi.
Je joue à Word. Word est le jeu de la vie.
Tu sais que t'es pas en tornaque quand on dit on t'achète un jeu vidéo, c'est Word, tu vois, c'est
Word,
génial.
C'est génial. Il y a juste un tableau de mission dans les stations que vous visitez, que vous êtes libre de consulter ou pas d'ailleurs, et qui vous permet d'accomplir des tâches ou d'aider ou pas les factions en présence. Donc ce tableau de mission, ça rappelle un peu City Hunter, pour ceux qui connaissent donc Nicky Larson.
Voilà,
ou le Pôle emploi.
L'espace.
Du coup, avec un scénario qui est proche de l'inexistant et aucune intrigue réellement scriptée, le champ il est complètement libre pour laisser le choix aux joueurs de raconter eux-mêmes leurs histoires.
C'est beau,
de créer leur légende et d'être à fond dans le roleplay.
C'est beau.
C'est ça qui est assez génial. Par exemple, il n'y a rien qui vous empêche de choisir un système et de décréter que c'est le vôtre. Voilà, on l'a vu. Donc, les mecs qui font ça, ils interdisent tous les gens qui passent. Donc, ils interceptent tous les gens qui passent en disant « Mais non, mais ici, c'est chez moi maintenant. » Donc, les gens disent « Mais non, mais moi, je fais que passer. » Ils disent « Mais non, tu passes pas, en fait. Parce que c'est chez moi.
Et puis, ça se finit en laser.
Oui, ça se termine en laser, effectivement. Donc, le mec ne fait que ça. C'est-à-dire qu'il défend son système comme un chien de garde, en fait. Et dès qu'il voit quelqu'un, il va lui dire « Non. Premier avertissement, c'est chez moi, tu viens pas.
Ouais,
c'est
si tu reviens, t'es mort. » Un petit peu comme Baltimore quand tu gardes ton corner. Quoi.
C'est ça, c'est exactement ça. Du coup, le jeu porte super bien son nom parce que dans ce monde ouvert et sans interventionnisme d'aucune sorte, chaque partie, elle est vraiment dangereuse en fait.
Ouais.
Et on peut se faire déglinguer sur un trajet archi connu qu'on a déjà emprunté 1000 fois à cause d'une mauvaise rencontre, donc comme ce mec-là, ou d'un excès de confiance en vos capacités ou celles de votre esquif. Et là, je regarde Ghislain, n'est-ce pas, qui repaye son vaisseau toutes les demi-heures. Et donc ça, ce côté précaire, c'est exactement ce qui se passe dans la vraie vie. Et c'est cette fragilité qui rend le truc complètement génial. Enfin, ça et les multicanons qui sont montés sur tourelle. Alors, du coup, vous trouverez pas deux personnes qui jouent de la même manière pour progresser. On aura tous le tronc commun parce qu'on commence avec le même vaisseau et la même somme dérisoire d'ailleurs. Mais après, chaque personne forge ses propres expériences et on trouvera jamais deux personnes qui ont fait la même chose, les mêmes choix au même moment. Alors c'est un fait, je le reconnais, je suis le premier à le reconnaître, cette absence de guide et d'assistance peut un peu déstabiliser, voire rebuter certains.
C'est un peu aride hein, des fois quand même.
Voilà,
hein.
Pour ça, l'absence de narration, pour ces personnes-là, c'est un signe que le jeu est bâclé ou qu'il n'est pas fini en tout cas. Pourtant, quand on prend le temps de s'y intéresser, on se rend compte que tout le jeu repose sur des lois qui sont simples et universelles. L'offre et la demande, la gravitation, ça Ghislain c'est super important, et la loi du plus fort, ça aussi c'est ultra ultra important. Et ce qui est mortel dans ce jeu, c'est qu'on passe sans souci du vas-y viens on le tente, on verra bien ce que ça fait.
Ouais.
Là par exemple, moi j'ai entraîné l'ami Sylvain ici présent,
tout à fait,
dans une séance de mining de gros prolo.
Je confirme.
Donc on est parti à deux dans un champ d'astéroïdes pour essayer de se faire des brousoufs.
Donc de miner des astéroïdes.
Ouais, on a miné. Alors Sylvain minait avec son petit laser.
Ouais.
Et puis moi je ramassais les morceaux derrière. Voilà. Et ça me prenait un temps fou. Et on a gagné 23 copecs. On est allé plus vite. Je crois qu'on s'est fait deux gros vaisseaux en sortant. Du coup ça nous a fait 100 000 crédits. Ouais. Ça a fait la soirée. Mais
tu me dois de l'argent.
Je crois. Oui, je te dois 5 000 crédits Sylvain. D'autres ont décidé de se lancer dans la fraude à l'assurance à grande échelle ou la contrebande d'esclaves en désactivant tous les systèmes pour éviter de se faire repérer par les services de sécurité. Donc en fait, dans Elite, il y a un genre de variation de la roule 34 qui s'applique. C'est si tu y penses, c'est que ça se tente, globalement. Et c'est ce qui fait pour moi, hein, en tout cas, la grandeur du jeu, c'est le metagame. Donc tout ce qui se développe autour du jeu, le jeu dans le jeu, et le jeu en dehors du jeu. On passe pas mal de temps quand même à lurker.
Ouais.
C'est le mot du soir.
Hashtag lurk.
À lurker les expériences des autres sur Reddit.
C'est vrai que c'est pas des histoires complètement folles là.
Ouais, c'est complètement dingue. On parcourt tous les forums qu'on trouve, on utilise tout plein d'outils qui sont mis en place par des mecs qui veulent jouer au jeu mais qui veulent avoir la vie facile, donc qui sont pas du tout prévus dans le jeu initial. Et puis on réfléchit à des nouvelles routes commerciales pour optimiser notre temps, pour optimiser la thune quand on va au boulot. Donc ça c'est signe que le jeu est totalement merveilleux. Ou c'est le signe qui
ça, c'est d'instinct de simulation et de simulateur de doc qui parle. Hein.
Alors pour conclure, hein, je vais vous laisser courir acheter le jeu, mais je dirais que si on comparait en fait Elite Dangerous, enfin si on comparait le jeu video à l'éducation nationale,
métaphore,
le dernier Assassin's Creed, ça serait la cinquième techno.
c'est le dont on parlait.
En plus, c'est vraiment de la merde comme jeu, il est mal fini. FIFA, ça serait un peu le BEP. Et Elite Dangerous, en fait, ça serait la fac.
La fac.
Ouais, l'université. Parce que t'arrives, t'es complètement paumé, le truc est immense. Il y a énormément de gens autour de toi, tu sais pas ce que tu dois faire, tu sais pas comment tu dois le faire, mais t'apprends plein de trucs, tu te forges ton avis, tu te forges ton expérience au gré des rencontres que tu fais, au gré des cours de djembé que tu prends. Tu deviens un champion 3e Dan de Diabolo et tu visites le BDE à peu près toutes les demi-heures. Et du coup, la fac, bah, t'en sors un peu moins con, plus au fait du monde qui t'entoure et parfois avec des maladies vénériennes, ok. Mais t'as super kiffé grave. Et tout ça pour 49 euros.
Oh là, toi aussi, tu native advertising de malade, là.
À tout de suite, Commanders.
À tout de suite dans l'espace. Alors, Elite, c'est un gag parce que autour de cette table, donc. Bon, du coup, alors, Mélissa dit.
Non, c'est faux, j'ai envie de jouer.
Ah!
Mais oui, parce que mon argument toujours, c'est de dire, j'adore explorer les endroits où on peut.
On la reverra plus jamais.
Donc, pour dire, Daz joue à Elite, je joue à Elite, Sylvain joue à Elite, Fibre, donc, va nous en parler peut-être tout à l'heure, a joué aux anciens Elites, donc, était très laid. Parce que tu parlais de l'importance.
Oui, justement, lui, il a réussi.
Jeu très beau. Ouais. Et Ghislain se crache dans Elite. Donc voilà. Donc, on a un peu tous accroché. C'est un des gros coups de cœur de ces derniers mois.
Ouais.
C'est un jeu un petit peu fou. Et j'ai une question pour toi. Tu nous as pas parlé du pilotage et de la simulation alors que tu nous as fait une chronique culte sur les simulateurs, les machins. Et c'est un plaisir d'Elite. C'est que tout est géré de manière très linéaire.
Très rien du tout parce que j'ai jamais voyagé à 12 000 fois la vitesse de la lumière et j'ai jamais fait de vol spatial. Donc, ça n'est pas de la simulation. C'est pour ça que j'en parle.
Mais t'as jamais conduit du F-16 non plus, hein.
Oui, c'est vrai.
Je sais pas. Non, mais en fait, oui,
le pilotage est un plaisir.
Oui, aussi. La partie pilotage est super plaisante, mais en fait, faut pas en parler parce que finalement, tu te dis que si justement le jeu était vraiment très, très, très réaliste,
oui,
et ça se passe en l'an 3300, je pense qu'à cette époque-là, il y aurait plus besoin de faire du vol manuel, en fait.
C'est vrai. Ou alors le vintage.
Ah ouais, peut-être des hipsters de l'espace.
Reine depuis 1000 ans et on est resté bloqué en.
Les adeptes du vinyle. Ouais, non, c'est vrai que la partie vol, elle est complètement folle, mais c'est ça qui accroche. Hein. Le premier tutoriel, c'est dans un champ d'astéroïdes et je crois que c'est là que tout le monde se prend la première baffe en fait, et c'est très intelligent d'avoir mis ça à cet endroit-là parce qu'après les champs d'astéroïdes tu les rencontres plus jamais jusqu'à ce que tu saches te démerder dans le jeu, donc longtemps après, mais première mission, premier truc, le champ d'astéroïdes, ça tabasse la gueule en fait.
Sylvain, toi qui donc est un élite Elitos.
Un Elitos.
Un ouais. Elitos Dangerous.
J'ai l'impression de passer plus de temps en dehors du jeu sur Reddit.
Ouais.
Mais ce qui est génial, parce qu'il est sorti, tu disais quoi, depuis deux mois.
Ouais, 16 décembre, ouais.
Et il y a déjà une culture qui s'est. Déjà une société qui s'est créée autour de ce jeu.
Et c'est ce que disait Daz, ouais, tout le storytelling autour.
Tout le metagame, tout le storytelling qu'il y a autour, où t'as des mecs sur Reddit qui vont faire des entrées de journal de bord en mettant jour 2, machin, raconter les interactions entre les différents joueurs. Tout le monde joue le jeu. Il y a un mec qui va poster des vidéos sur YouTube où il va nous raconter ses aventures, etc. C'est fascinant, quoi. C'est génial. C'est un moteur de fiction qui est extrêmement puissant.
Daz en parlait justement, c'est ce côté. Est-ce que le côté quasiment champ friche qui peut rebuter des gens, mais qui permet à ceux qui ont envie de cultiver de dire on va faire ce qu'on veut, c'est ça ce qui.
Moi, je pense que ouais, c'est ça. C'est le fait qu'il y ait aucun script, qu'il y ait aucune histoire, qu'on t'oblige à rien faire. C'est comme la fac. Si t'as pas envie d'aller en cours, t'y vas pas, quoi.
Ouais, tu vas jamais, du coup. Et du coup, tu vas pas la fac. Tu passes plus de temps sur Reddit que de jouer.
Plus de temps sur Reddit que de jouer. Mais du coup, ouais, c'est pour ça que les gens développent autant de culture. En même temps, voilà, tu peux aller explorer avec ton vaisseau des lointaines contrées où aucun joueur n'est jamais allé. Tu vois, être le premier à y aller.
Mais on rappelle quand même que toute une partie de la galaxie est calquée sur la galaxie.
C'est à l'échelle 1 et c'est vraiment calqué sur.
C'est
sur
la Voie lactée.
Réalité.
Donc on peut aller dans le système solaire, voir la Terre, etc. Donc
on peut aller dans le système solaire et retrouver la sonde Voyager qui poursuit son chemin en fait. Et, ouais.
À l'endroit où
et
elle sera en 3300.
Ouais, voilà, c'est ça qui est complètement dingue. C'est
alors, il faut préciser que les développeurs du jeu sont des frappés de l'espace. Hein, ouais, ce sont des gros fanats de l'espace au-delà
mais
de.
Mais ça se sent en fait, parce que c'est vraiment une expérience ce jeu.
Du coup, Mélissa, toi, tu me disais que ça t'intéresserait. Alors que toi, ouais. Tu me dis, je joue pas aux jeux vidéo. Alors on s'était dit, bon, on va y aller en douceur. Et en fait, tu dis, tu dis, je suis intéressé par les jeux les plus hardcore et les plus arides. Il y a une formule qui est très connue depuis maintenant un test qui dit, Elite s'en fout de votre gueule et c'est pour ça que c'est merveilleux. Tu pourrais comprendre, mais disons que le démarrage, effectivement, c'est aride.
Mais tu vas apprendre, quoi.
Est-ce que du coup, ça te botterait, toi?
Mais oui, parce que du coup, je me dis, mais je préfère ça et ça et ça et ça. Là, je croirais que je fais un truc que personne ne fait alors que tout le monde le fait. Mais j'aurais vraiment cette impression-là. Et moi, c'est ça le truc qui me botte, c'est vraiment de me dire. Parce que j'ai toujours vu des jeux où tu dois suivre un truc et aller tuer machin et tout. Là, tu suis rien. Donc, c'est là que ça me botterait.
Ce qui est génial, c'est l'histoire de ces explorateurs, là. Tu sais que.
On peut être explorateur dans le jeu.
Voilà, une des carrières possibles qu'on peut décider d'embrasser, c'est être explorateur, c'est-à-dire découvrir les systèmes.
C'est nickel, je veux voir ça.
Tu scannes des planètes.
Il y a des gens donc qui sont partis là-dessus et qui découvrent les planètes. Et puis là, la dernière mise à jour, la version 1.1 du jeu, permet à la première personne qui trouve le système d'avoir son nom marqué dessus.
Enfin, qui trouve le système et qui ramène la carte.
D'avoir son nom marqué dessus en disant ce système a été découvert par un tel et du coup. Les explorateurs se sont transformés en chacal.
Ah ouais?
C'est-à-dire que là, il y a un type qui était à je sais pas combien d'années-lumière de distance de toute civilisation qui a croisé un autre explorateur et qui s'est fait poignarder dans le dos parce que l'autre voulait pas qu'il ramène le système.
Alors que c'était un des seuls trucs où les mecs étaient à peu près pacifiques.
Oui, voilà.
Ils étaient très contemplatifs,
vachement solidaires et tout. Et là, les mecs sont prêts à s'entretuer pour pouvoir ramener les cartes en premier et dire c'est moi qui l'ai trouvé. Je trouve ça génial. C'est vraiment génial.
C'est ta faute, c'est vrai. Fibre. Alors, Fibre. Tu ne joues pas au jeu, à Elite Dangerous.
Non.
Il a peur.
Tu as séché, tu as essoré un Elite précédent qui était Elite. Frontier Elite.
Oui, j'ai joué au premier Elite, au Frontier Elite. C'est un peu la même chose.
Donc tu as fait les deux premiers en fait.
J'ai fait ma fac, on va dire.
Alors, voilà. Parce qu'on l'a pas dit.
Il a fait une fac de socio, il va pas refaire la psycho.
C'est clair. Elite est un jeu, c'est une licence qui a 30 ans.
Oui, j'aimerais juste dire deux points pour la culture de nos auditeurs.
Oui.
Les jeux vidéo dans lesquels on est libre de faire ce qu'on veut, ça a un nom, ça s'appelle les jeux freeform. Voilà. Ça existe aussi dans le monde de la fantasy. Il y a aussi sandbox, mais quand on parle de campagne, c'est-à-dire absence de campagne, GTA est un sandbox, il y a une campagne.
Oui, enfin,
c'est vraiment rien, c'est freeform.
Okay. D'accord.
Voilà. David Braben, qui crée Elite, a également fait le Raspberry Pi.
Ah, c'est vrai, c'est lui.
Putain, je savais pas. Bon. C'est pour ça que je l'aime bien.
C'est un badass quand même.
On apprend des choses dans 4-5-4.
Le respect total. Hein.
Non, si je pourrais vous dire des trucs sur Frontier, vous y croyez pas tellement, c'est incroyable. Bon, bref.
c'est surtout un éditeur de jeux spécialisé dans les montagnes russes qui fait des roller coaster tycoon depuis des années aussi.
Je ne suis pas d'accord avec Daz, pour changer. Pour la raison suivante, c'est qu'il parle de Star Trek, j'aime beaucoup Star Trek.
Oui.
Et ensuite, il parle de Elite. Et Star Trek, c'est une utopie des années 50 dans laquelle l'argent n'existe pas.
Ouais.
La nourriture se crée automatiquement. On est dans la découverte de l'autre. Il n'y a plus de guerre et on est dans la découverte des formes étranges et reculer l'impossible en quelque sorte. On est dans un monde pacifique et idéal. Et dans
pacifique,
Elite,
les Klingons, excuse-moi.
Et dans Elite, on est dans la crasse du capitalisme, c'est-à-dire l'argent, que l'argent, toujours l'argent.
C'est
et
faux.
Je trouve que faire un reboot de Elite. Parfait, mettre des beaux, plus beaux graphismes, tant mieux. Mais sociologiquement, ça n'a pas évolué. C'est encore pire qu'avant. Et je trouve que c'est une régression.
Est-ce que c'était comme ça dans les anciens Elite auxquels tu as joué, donc
pareil.
Celui de 84
c'était...
et celui de 98, je crois.
C'était pareil. On pouvait même acheter une usine, la mettre sur un astéroïde, récupérer
les. C'est ce qui
est
prévu dans les prochaines mises à jour.
Bon, voilà. Mais c'est vraiment ça. C'est la première remarque que je veux faire qui vraiment me déçoit énormément. Et on voudrait avoir plus de maturité. D'autant plus que c'est des Anglais, donc enfin, c'est pas des Américains. Ils pourraient quand même vive l'Europe.
Bon,
quoi.
On s'est fâché avec la droite, l'extrême droite, et mettons toute l'Amérique là.
Voilà.
Un peu
et sinon, je voudrais parler d'une chose par rapport à l'envie d'exploration de Mélissa. Ouais. Mélissa, tu as
un jeu qui s'appelle Out There.
Non, c'est pas ça. Mais tu as un univers devant toi qui reproduit grosso modo la Voie lactée, mais en vrai, les 99% de la galaxie sont générés par des mathématiques. Franchement, quel est l'intérêt d'aller voir un système solaire généré par une équation qui n'est pas en lien avec la réalité? Je trouve que ça n'a
aucun intérêt.
Parce que
je peux pas le faire en vrai.
Tu peux découvrir des choses en vrai, mais là, ça c'est un grand défi parce qu'il y a No Man's Sky qui est exactement le principe, c'est-à-dire génération procédurale d'univers. Est-ce qu'il y a un intérêt à visiter quelque chose qui a été généré par les mathématiques? Ça, je vous pose
la
question.
Oui, parce que les mathématiques,
mais on
c'est
peut
bon.
Pas visiter les autres, donc ouais. Les vrais.
Mais il y a quand même tout l'univers observable et dans Elite Dangerous, ça fait quand même un sacré paquet
non,
de.
Non, ils vous
de
disent ça,
solaire.
Mais c'est pas vrai. Il y a un complot. Bidon, bien sûr. Ils ont fait les deux trois systèmes qui sont autour du Soleil, mais le reste, c'est du génération aléatoire. Je dis pas que c'est dénué d'intérêt, mais je dis que la question se pose et en termes de les créateurs de jeux, et on va le voir avec la sortie de No Man's Sky, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un intérêt à parcourir ces espaces générés par des équations et pas par la main de l'homme? Et
alors moi je te répondrais oui, Sylvain. Parce que de toute façon les univers n'ont jamais été créés par la main de l'homme.
Ah si, Morrowind est entièrement
non,
créé par la main de l'homme.
Je te parle du système solaire, je te parle de l'univers. N'a pas été créé par la main de l'homme.
Ah, d'accord, c'est pas mal comme analogie.
Et bien sûr, et le fait qu'on soit en vie nous sur Terre et qu'on soit dans un système solaire propice à la vie,
c'est une équation aléatoire.
C'est complètement aléatoire.
Ah,
tu ne crois pas en Dieu alors?
J'adore ce débat sur l'astrologie.
Est-ce qu'il y a une certaine poésie à cet univers généré dans le jeu vidéo qui, d'une certaine manière, ressemble au Big Bang?
Des systèmes à deux trous noirs, quoi.
Mais voilà. Et je voudrais revenir sur ton premier point sur l'hyper-libéralisme et l'hyper-capitalisme de ce jeu. Tous les space opéras auxquels j'ai joué sur PC, X2, Freelancer, etc., se basent effectivement sur un système hyper-libéral, hyper-capitaliste où. Tout est bon à faire pour gagner de l'argent.
C'est le Far West.
Comment on explique ça? Est-ce que ça vient de la science-fiction? Fibre, est-ce que tu as une réponse à ça?
Parce que le pirate de l'espace, c'est-à-dire on a reproduit le modèle, le romantisme de la piraterie des Caraïbes dans l'espace. C'est zéro réflexion. Aujourd'hui, il est temps d'aller un peu plus loin.
Qu'est-ce que tu ferais, toi, si tu devais recréer un Elite? Est-ce que tu irais plus loin?
Moi, en ce qui me concerne, de toute façon, je travaille chez Miklo. J'ai fait un jeu qui s'appelle Out There, j'ai fait un autre qui s'appelle Sigma Theory. On a un dogme.
Là, tu vas te
on a un dogme. Et dans le dogme qu'on a, de pas de financement, etc. et on a.
Il place son
dossier. Mais grave.
On a pas de système financier dans le jeu.
Race.
C'est-à-dire, il n'y a jamais de pièces d'or. Tu tues quelqu'un, tu ne le lootes pas, tu ne ramasses pas des pièces d'or. C'est débile quand tu tues quelqu'un, t'es face à la mort d'un homme. Voilà. Et oui, c'est ça. Et on se met face aux réalités du monde. Et on essaye, si possible, de décrire un monde tel que l'ont rêvé nos ancêtres français, c'est-à-dire libérés des chaînes de l'argent. Voilà.
Nos ancêtres français n'étaient donc pas capitaux.
Un Elite Dangerous régi par les Lumières.
Tu pourrais faire du roleplay dans Elite Dangerous, c'est avec le vaisseau de base. Et tu sais que t'as vraiment des témoins de Jéhovah qui t'arrêtent dans le jeu pour dire ce que tu veux parler de Dieu.
Est-ce que t'as 5 minutes pour parler de Dieu?
Tu vivrais comme Diogène dans ton vaisseau pourri, tu sais.
Tu pourrais te balader dans le jeu et dire aux gens.
Zinona maintenant.
Voilà, tu pourrais dire relâcher vos cargos de café.
Brisez vos chaînes. Brisez vos chaînes.
Relâchez vos vaisseaux et vivons dans un truc. Tu pourrais essayer de faire ça.
Ça, c'est l'explorateur.
Il y a un parti communiste dans Elite qui s'est créé avec des 2300 joueurs quand même qui font partie.
Sérieux?
Ouais, bien sûr.
Et voilà.
Et est-ce qu'ils partagent ils mettent en commun leur richesse?
Ils essaient de tout partager, mais aujourd'hui c'est très compliqué de partager dans Elite. Mais bientôt tu pourras.
En mars, on pourra.
Pourquoi pas?
Ghislain, il a trop envie d'en parler avec nous là. Il est là et tout.
Bon, en tout cas, on vous invite à acheter le jeu. Il en vaut la peine. Et on streamera une session avec Mélissa Bounois qui. Pour sa première fois dans la chambre rouge, elle ferme les yeux et Daz lui plaça des lunettes de réalité virtuelle qui lui serraient un peu le corps.
FAQ.
Allez, encore une petite FAQ qui est posée par Mathieu Figuier qui dit on dit souvent que l'Internet c'est à l'image de l'homme, le meilleur comme le pire. Est-il possible selon vous de faire qu'Internet ne soit plus que le meilleur ou de fortement limiter le pire? Et est-ce souhaitable?
Non.
Non. Alors Mélissa, non, non,
tout
non.
Dit non tout.
Bon, voilà, ben on va passer à la suivante. Non, donc du coup, vous, c'est de rester.
Mais c'est le bordel. On va pas c'est surveiller Internet, vouloir faire qu'il y ait
oui,
une meilleure.
Et... Non, mais alors je pense que la question c'était plus est-ce que on doit à un moment avoir un comportement pour se dire essayons d'être constructif et positif et d'être
oui, mais meilleur qu'Internet. Constructif avec des poubelles dans un coin, tu vois.
Mais non, mais c'est tellement d'accord. Subjectif en plus que.
Internet sans troll.
Ouais, c'est ce que j'allais dire. Moi, je suis.
C'est
contre.
Pas Internet.
Je suis contre.
Bah, vous êtes tous des ex-trolls, c'est pour ça.
Des ex-trolls.
Bon, okay, repentis. Ça a été très très clair, c'est non.
Sujet numéro 4.
Facebook n'est pas cool, et alors ?
Bon, voilà, Fibre. Un autre. Fibre va nous parler d'un autre grand jeu, Freeform.
C'est bizarre parce que...
On peut faire un peu ce qu'on veut dessus.
Oui.
Mais l'argent est très présent quand même. Ça
et
s'appelle
alors,
Facebook.
T'as traduit mon Wookers à et alors ?
Ouais, et alors.
Je présente.
Alors, Fibre,
souvenez-vous, octobre 2013, nous disions arf, arf, Facebook devient ultra ringard. La preuve, vos parents viennent de s'inscrire. Et migration des communautés depuis Facebook jusque vers des médias plus dynamiques comme Twitter. À l'époque, Facebook flirtait avec le milliard de comptes actifs et le colosse à la main bleue semblait d'autant plus fragilisé qu'il changeait les règles du jeu puisque vous ne verriez plus les statuts de vos amis, mais uniquement des personnes avec qui vous interagissiez. Et conséquence annexe, il faudrait mettre un peu plus la main au porte-monnaie pour que les actualités de votre produit arrivent sur les pages de vos clients pour les gens qui vendent des produits sur Facebook. C'était le Facebook de Farmville, celui de la petite Noélie atteinte d'une leucémie qui veut que son don de moelle osseuse arrive. Celui des groupes de sociétés du style « Je préfère une tartine au brie que Martine au brie », ceux qui pensent que Martoni bluffe. Alors, un an et demi après, on en est où ? Eh bien, Facebook est passé de 900 millions de comptes actifs à 1 milliard 500 millions de comptes actifs, soit une croissance de 50%.
Ils ont perdu 100 millions quand même.
On est quasiment à 1 internaute égale 1 abonné Facebook, je veux dire. C'est une domination du marché énorme. Alors, vous, utilisateurs de Facebook, parce que vous y êtes toujours, vous avez peut-être un sentiment de vide. Plus de sollicitations Farmville ou plus de sollicitations Candy Crush. Juste quelques amis qui postent des statuts et bizarrement, ces statuts sont intéressants.
Aha.
Qu'est-ce qui s'est passé ?
Complot.
Est-ce que Facebook est devenu un réseau social pertinent et intéressant ? Non, pas lui, pas le Facebook ringard qu'on croyait mourant. Et oui, alors que vous alliez batifoler sur Twitter, Snapchat ou même rions un peu Hello, Facebook a résisté. Il a résisté à notre résistance au changement et il s'est imposé en arrière-plan. Il est devenu le Windows de l'Internet.
C'est très vrai.
C'est exactement ça.
À tel point qu'une étude relayée par Quartz.com indique qu'en Asie du Sud-Est, il y aurait jusqu'à 2 fois plus d'utilisateurs déclarés de Facebook que d'Internet.
Qu'est-ce que ça veut dire, ça ?
Parce que les gens font une distinction entre les deux services et ils ne s'aperçoivent pas qu'on ne peut pas avoir Facebook sans avoir Internet.
Ah oui, carrément.
Et donc, voilà. Et vous savez, c'est coincé d'IBM. Non, mais vous savez, IBM, là, ils ont tous des looks à la Dwight Schrute de The Office. Mais il y a très longtemps, c'était des mecs cool du MIT qui inventaient des choses. Et ils avaient le look de nos startups des années 2010. Eh bien, aujourd'hui, Facebook, il a gagné. Il a confirmé sa position de domination totale des réseaux sociaux en renonçant à être cool. Il a fait son deuil de son statut de startup. Il est devenu, comme Microsoft, comme IBM justement, le père de famille qui siège à la table et qui soupire quand les petits cousins Snapchat et Twitter se chamaillent et font du bruit et quand Tumblr, l'ado emo avec la mèche, il fait la gueule dans un coin.
On va réfléchir, quoi.
Alors, la grande question sur laquelle vous allez débattre, c'est et si certaines entreprises et nouvelles technologies rataient leur passage à la maturité, c'est-à-dire tout simplement leur survivance, en voulant absolument être cool. Et je clôturerai ma chronique en citant une anecdote. En 2013, donc au même moment où on s'inquiétait du sort de Facebook qui devenait ringard, Yahoo rachetait 1,1 milliard de dollars Tumblr.
C'est vrai.
Pour être cool, uniquement pour être cool. Un an et demi après, les revenus de la plateforme sont opaques, c'est-à-dire on ne dit pas combien on gagne, c'est-à-dire on gagne très peu. Et Yahoo n'est pas devenu plus cool, pas plus célèbre et certainement pas plus riche. Qui a pris la bonne décision ?
Ah ah ! Ouais, je vous laisse en parler après, mais c'est quand même une chronique que je trouve très juste de la part de Fibre. Sylvain.
Il veut pas dire le contraire, quoi. Il peut pas dire que c'est pas Windows.
Je sais pas. Si, il y a un petit côté où je suis assez d'accord, mais je suis en train de réfléchir si j'ai des contre-exemples, si j'ai des startups qui sont devenues, qui ont atteint une certaine taille critique et un certain revenu économique, qui ont quand même gardé cet esprit.
Moi, j'en ai une, c'est peut-être Apple.
C'est pas du tout une start-up.
Non. Non. C'est un peu l'esprit start-up.
C'est un esprit pas du tout. Oui, non,
tout le d'accord. monde se revendique de l'esprit start-up, mais.
C'est quoi l'esprit start-up en fait?
C'est quand t'as pas de thune.
C'est venir
en fait,
avec un Uzi au boulot, c'est ça? C'est faire du skate le week-end, c'est quoi l'esprit start-up?
Non, alors tu cherches quand même un service équivalent Facebook qui serait resté. Qui ouais. aurait resté cool en devenant énorme en fait, c'est ça.
Moi, ça me fait mal au cœur de le dire, mais Google,
Google. Tu penses que Google est cool?
Je pense que Google sont cool. Après, la position dans laquelle se trouve Google fait que de toute façon, ils sont obligés de dominer l'humanité. Mais je pense que au sein de Google, il y a vraiment, enfin, l'état d'esprit initial est cool. Alors que Facebook, on sait que l'état d'esprit, c'est quand même des grosses salopes.
Ah, et tu penses que chez Google, c'est toujours en mode don't be evil, tout ça, rien.
Ouais, entre eux.
Ouais, ouais,
regarde ce que je fais. Ah, c'est cool, avec ça, on va servir un pays. Ah, oh, génial! Voilà.
Mais en Audi, sur une trottinette.
Voilà, c'est ça. Entre eux, les mecs, voilà, ils discutent de ça en allant à la cafette vegan, chercher des produits bio. Mais je pense que, ouais, c'est peut-être Google qui représenterait le mieux le truc du, on a de l'oseille.
Mais on est resté
un peu simple,
un peu
cool,
détente,
ouais. Ouais, détente.
Genre, vous avez des vacances, vous avez 15% de votre temps pour faire des
projets. 20%
de temps.
C'est possible au-dessus des 100%. Parce que...
Est-ce que vous êtes toujours sur Facebook, déjà? Ouais. Question.
Yes.
Oui, tout le monde. Oui. Mélissa, toujours sur Facebook.
Oui.
Est-ce que, comme dit Fibre, vous avez eu un moment où, comme tout le monde, je vais me casser de Facebook, je vais trop aller chez Hello, chez un autre service qui est censé être trop cool. Est-ce qu'à un moment, vous êtes revenu à Facebook et que vous l'avez découvert à un moment? Des qualités jamais. Réelles en disant bon bah ça fonctionne, ça fait le job, j'ai mes événements, j'ai mes
jamais.
Groupes machin. Toi t'as jamais aimé?
Non, c'est pas que j'ai jamais aimé, c'est que j'ai jamais dit ah, je vais me casser pour aller ailleurs en fait, parce que ce qui fait l'intérêt d'un réseau social, c'est le social, donc
c'est
tu vas ailleurs et t'es tout seul, bah c'est génial Hello, mais voilà, t'es avec toi-même et
d'accord,
autant écrire un journal.
Donc toi t'as jamais douté? Mélissa, t'as douté un moment, tu t'es dit je vais me casser pour à la fin revenir ou...
Non, quand je vois les gens qui se cassent, ça m'énerve.
Ouais, ça
font leur petit message de salut là.
Pénélope avait fait une chronique très intéressante sur le fait qu'elle avait quitté Facebook.
Oui, mais elle n'est pas revenue en fait.
Oui.
Ouais.
Ceux qui reviennent pas, c'est très bien. C'est très très bien. Ceux qui se barrent, donc le compte est grisé, tu vois. Le mec est utilisateur non inscrit ou un truc comme ça. Puis 6 mois après, le mec est là, tu fais mais putain.
Ouais.
Mais...
Moi, j'ai juste fait des diètes bien de ça. Facebook.
T'as fait des diètes?
Où j'enlevais l'appli de mon téléphone. D'ailleurs, je l'ai plus parce qu'elle consomme trop et que j'ai un iPhone 4 qui
ne tourne pas. Genre un jeûne, tu tenais 2 jours comme ça avant de faire des
Mais je faisais tous les réseaux en fait, je faisais pas juste Facebook.
D'accord. Et alors, donc, tu t'es senti mieux pendant cette période-là? T'as fait des expos?
J'ai lu des livres. Grosse folie.
Les livres matériels, c'est bizarre ça.
Ouais.
J'ai une petite remarque personnelle sur l'utilisation sur le nouveau Facebook qui vous met en relation avec vos amis. C'est que ce système qui donc ne vous donne des informations que sur les amis avec lesquels, enfin les personnes avec qui vous interagissez.
Ça c'est chiant.
Un très grand avantage, c'est qu'on ne vous suit plus pour faire du hate reading justement dont Mélissa tu avais fait une chronique, parce que en fait, il y a beaucoup de comptes silencieux sur Twitter qui vous suivent et ils vous détestent, tu vois. Mais sur Facebook, comme ils interagissent pas avec vous, ils peuvent pas vous lire. Donc, c'est redevenu un peu le sanctuaire d'une certaine liberté d'expression personnelle, pour moi en tout cas. Je dis des trucs que tu passes sur Twitter.
Toi, par exemple, Philippe, tu te sens actuellement, tu as une sorte de retour en grâce de Facebook où tu dis, bah, en fait, c'est pas mal l'expérience que j'ai actuellement de ce
Tous les statuts sont qualitatifs, j'ai plus de Farmville, plus de Candy Crush, je sais que j'existe quelque part. Et ouais,
mais du coup, t'as plus aucune découverte, plus aucune sérendipité.
Mais vous avez.
Placé.
Non, mais vous avez vécu il y a 6 mois ce fameux questionnaire, est-ce que ce statut vous plaît? Est-ce que ce statut vous plaît? Vous y avez répondu comme
non,
moi parce que
moi j'ai pas répondu.
Bah, moi en tout cas j'ai répondu. Maintenant c'est super qualitatif. Je suis hyper content de Facebook. C'est génial.
Alors il y a un point intéressant, c'est que Philippe parle d'un nouveau Facebook.
Oui.
Est-ce que vous l'avez senti ce changement?
Non.
Ou est-ce que ça s'est fait très progressivement?
C'est insidieux.
Pour moi Facebook ça évolue constamment.
Ok, non, les marques nous ont fait chier parce qu'on a tous des potes community managers. Ils étaient là, ah, le reach machin, j'ai les boules et tout machin. T'as Fibrotique qui va prendre du recul et qui va dire comment c'était en 2013. Ah bah c'était pas comme maintenant. Donc effectivement j'ai vu un changement. Mais je pense pour 90% des utilisateurs de Facebook, ça c'est transparent. Hein.
Et ça c'est le problème des updates côté serveur. Et je milite fermement contre ça.
Ouais, toi, tu défends des grandes choses.
Les mises à jour côté serveur, c'est-à-dire les mises à jour qui se font de l'autre côté du truc, ce qui fait que toi, sur ton ordinateur, rien ne change.
T'es pas averti,
on ne dit pas, il n'y a pas de changelog, il n'y a que dalle. Et un jour, tu te réveilles et tu fais, eh putain, je vois plus ces personnes-là, sont-elles mortes? Non. C'est juste que dans la nuit, on a fait une update sur notre serveur Facebook qui fait que bah, tu vois plus que les statuts des gens avec qui
Donc ça te fait chier, mais tu restes quand même sur Facebook sans faillir.
Oui, mais attention, moi, je suis pas non plus. Enfin, Facebook, je l'ouvre. Enfin, c'est surtout pour les groupes. Parce que mine de rien, c'est quand même vachement pratique, ça, la gestion des groupes, la gestion des events.
Je pense
que
qu'ils
ont assez réussi.
Une grande partie du trafic de Facebook vient des groupes privés.
Moi, j'utilise pas Facebook en me disant tiens, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui dans le monde? Parce que je sais que c'est faux. Ça, pour ça, je vais aller voir Twitter plutôt. Tu
D'accord.
Vois c'est vraiment qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui dans les gens qui a priori avec lesquels j'interagis le plus.
D'accord, donc voilà. Pour toi, il y a quand même un vrai rôle, en tout cas que toi t'as trouvé, qui est quelque chose de plus dans des cercles d'amis proches.
Oui, parce que c'est bien foutu, ouais, ça c'est bien foutu, faut le reconnaître.
Donc il y a quand même des qualités.
Il y a un point intéressant dont Fibre a parlé, c'est cette étude qui a été menée au Nigeria, en Indonésie et je sais plus
dans le tiers monde,
dans des pays assez pauvres, sur ces gens qui pensent aller sur Facebook mais qui n'ont aucune conscience d'aller sur Internet.
Oui, c'est
fou. Zuckerberg a créé un organisme qui s'appelle internet.org, qui est une mission sociale pour apporter Internet dans les pays les plus reculés et les plus pauvres du monde. Sauf qu'en fait, il va apporter Facebook.
Bah, évidemment.
Ah, ça, du coup, le complot se complotise à mort, là. Ah,
mais Zuckerberg.
Zuckerberg, Rothschild, voilà, son banquier, c'est ça. Et du coup.
Petite blague grasse.
Non, c'est pas du racisme, c'est de l'antisémitisme. Non, bien sûr, c'est de l'humour, chers auditeurs.
Amis sionistes, si nous écoutez.
Et du coup, il va apporter, en montrant au monde qu'il a bonne conscience et qu'il fait une action sociale, il va en fait défoncer la neutralité du net dans des pays qui connaissent même pas Internet. Quoi.
Totalement.
C'est assez triste. C'est assez
Alors, quittons le Nigeria et la Malaisie et Nord-Pas-de-Calais. Revenons un peu sur chez nous. Il y a un truc que j'ai trouvé très intéressant dans la chronique de Fibre, c'est qu'à un moment, il dit Facebook a accepté de ne pas être une start-up jeune et cool, et ils ont accepté de vieillir. Et c'était très intéressant parce qu'il y a tout un débat autour de Yahoo en ce moment et de son PDG Marissa Miller qui a essayé de rendre Yahoo cool, n'a pas réussi. Et les gens disaient à un moment, il faut apprendre à faire des start-up qui sont devenues des entreprises qui ont vieilli, qui ne sont pas cool mais qui fonctionnent. Et pas mal de chroniqueurs pointaient vers AOL qui fait toujours de l'argent, beaucoup d'argent, sur des services et des abonnements d'Internet à l'ancienne. Ils font plus de bruit, ils font plus de trucs spectaculaires, et ils ferment les sites qu'ils ont rachetés à grands frais, mais ils font leur job. Est-ce qu'à un moment, Facebook aussi devient une commodité, un utilitaire, quelque chose qui est complètement dépassionné, mais que vous pouvez garder, ou est-ce qu'à un moment, vous dites, non, une start-up doit être un peu excitante, doit être un peu funky, etc.
Mais déjà, quand tu lèves le capital que Facebook a levé, je veux dire, on ne peut même plus parler de start-up, c'est plus une jeune pousse.
Mais justement,
les mecs dépensent 3 milliards pour acheter Instagram.
Ce qui est intéressant, c'est que par exemple, Google continue à avoir ce qu'ils appellent des moonshots, ils testent des trucs un peu
mais
spéciaux.
Mais je pense que
Facebook... Est-ce qu'à un moment, tu peux devenir quelque chose qui n'innove plus et qui fait bien le boulot?
Non, mais je pense que Facebook,
une sorte d'artisan, quoi.
Fibre dit que Facebook a renoncé à être cool. Je suis persuadé que si tu vas chez Facebook et que tu leur poses la question, les mecs sont toujours persuadés d'être cool, en fait.
Tu penses?
Mais ils le sont un petit peu aussi, franchement.
Parce que Yahoo, c'est corpo, je suis d'accord. Yahoo, c'est vraiment corporate.
Ils ont acheté Oculus Rift quand même, Facebook.
Bah oui, justement, mais c'est pour ça.
Et Instagram.
Et WhatsApp. Et Oculus Rift, ils ont annoncé qu'ils allaient donner la possibilité aux utilisateurs de créer du contenu de réalité virtuelle. Donc je trouve ça cool, moi. Les mecs se posent des questions quand même sur le futur de ce que va être Internet et ce que va être le numérique, etc.
Mais ils l'ont racheté combien, rappelle-moi?
Je pense qu'ils essayent de faire
très cher. Voilà. Très, très cher.
Un milliard. Voilà.
Toi, mais ça, cette idée d'avoir un réseau social qui n'est pas cool, qui assume le fait qu'il soit pas cool, mais qui marche bien, est-ce que c'est quelque chose, toi, qui l'acceptes, du coup? Ou tu te dis, ah non, mais.
Ouais, parce que pour moi, il est déjà plus cool, quoi. C'est vraiment un utilitaire.
D'accord. De toute façon, en quoi le réseau.
Comme un système d'exploitation.
Faut sortir de cette dictature du cool, là. On s'en fout. Ce qui est cool, c'est les personnes qui sont sur le réseau social, pas le réseau social en lui-même, quoi.
Non, mais c'est un petit peu un travestissement pour lever des fonds. Quand t'es cool, on t'a des fonds. Et quand tu commences à gagner de l'argent sans investissement extérieur, t'es tout simplement en facturant des clients, t'as plus besoin d'être cool, tu peux juste être un comptable. Voilà.
Oui, mais je veux dire, le fait de lever des fonds et après de devenir un petit peu, enfin, de tourner sur leur propre business et leur propre profit, on va pas me faire croire que les mecs, quand ils lancent le produit, ils ont pas ça en tête dès le départ. Je veux dire, on a des jeunes de 14 ans qui commencent à coder avec, en tête d'être rachetés tôt ou tard par un pont de la Silicon Valley. Donc, je veux dire, le calcul, argent à faire, pour le produit que je suis en train de développer, il est fait, mais dès le départ.
Contre-exemple, Twitter. Hein.
C'est vrai.
Twitter, Jack Dorsey, il l'a fait tourner pendant 5 ans sans aucun modèle économique.
Il a envoyé des SMS à des millions de personnes toutes les minutes. Donc,
joli contre-exemple.
Sylvain, il cherchait un contre-exemple à Fibre en début de chronique, il l'a pas trouvé. Bon, donc on est tous d'accord, du coup, sur
c'est pas grave si c'est plus cool.
C'est pas grave, c'est pas cool. Donc toi, t'es d'accord avec Fibre.
C'est utile.
Mais ça aussi. Et toi, Daz? Oh là 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 là.
Consensus.
Score maximum. Consensus. Tous les jurys sont retournés vers toi, Fibre. The Voice.
Et voilà, tu as toutes les lumières.
Mais peut-être vivons-nous une fanfiction, là.
Avec Mark Zuckerberg, ça va être très dur à rendre sexy. Allez, merci beaucoup. Sébastien Gestien nous demande si nous sommes condamnés à avoir des news buzz pour des médias de moyenne importance de demain et que ce sera la norme.
En fait, la question, c'est les médias qui sont pas connus, est-ce qu'ils sont obligés de faire des
top 10 des choses qui vont vous étonner
pour faire du trafic?
Est-ce qu'à un moment, ils sont tous obligés de faire des trucs un peu sales pour qu'à un moment exister sur, sur le réseau social ou sur les moteurs de recherche ?
Réponse.
Ma réponse, oui. Ma réponse est non.
Ah. Ta réponse est non.
Ouais, parce que le problème des médias comme des startups, c'est leur problème aussi. Souvent, ils sont capables de faire du très bon contenu ou un très bon produit, mais ils ne savent pas communiquer.
Ah.
Et un média qui sait bien communiquer peut commencer à être connu en faisant du
ce
contenu.
Qui est faux.
Ouais, mais le truc, c'est que
un exemple.
Mais, attendez.
Ça va être un débat.
Mais justement,
quoi.
Je n'ai pas d'exemple puisque c'est un complot.
Non, 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 mais parce qu'ils ne savent pas communiquer. Ils n'ont pas de budget. Comme.
Ouais, mais ils font un petit couteau suisse, un petit mec sympa. Je charge du travail. Non, je déconne.
Toi qui vois ça.
Ils ont tous un CM un peu malin. Ils ont tous un peu un CM un peu malin.
Ouais, mais ça se joue pas qu'au CM. C'est aussi du
bien sûr.
C'est aussi plein de choses.
Mais ça, il n'y a pas de budget. Pour avoir été dans différents médias,
donc
le budget comme, mais ils sont nuls. Après, peut-être qu'il faudrait un budget comme. Mais le truc, c'est qu'ils mettent tout l'argent qu'ils ont dans
Est-ce que tu demandes comment ça marche le RP à film. C'est se faire des fichiers, passer du temps à écumer des chaînes YouTube, des machins et envoyer des mails.
Je vois bien comment ça marche, mais le truc.
Oui, mais là,
c'est que...
là on parle de jeux vidéo et là, on parle de médias. Toi,
non,
mais c'est ça qui est dedans. Est-ce qu'un média qui naît,
pour moi, je m'en fous,
peut passer au-delà des articles à la BuzzFeed à la Bourse.
Il y a un problème fondamental, c'est qu'il y a beaucoup trop de contenu aujourd'hui sur Internet et qu'il y a beaucoup trop de médias qui sont pas connus par rapport à des médias qui sont surconnus et qu'on va citer et que les gens vont aller sur Le Point parce qu'ils connaissent Le Point et Nouvelle Obs et ils vont pas aller sur Le 4 heures qui est un super site de longue
durée. Faire de la notoriété, c'est là où la communication.
Mais comment t'es noyé quoi. Donc tu veux.
Alors il y a une autre stratégie.
T'es obligé de dépenser 10K dans une stratégie
très
comme de Maboule.
C'est que s'il y a trop de contenu, il faut détruire les autres.
J'aimerais qu'on aborde le cas Slate.
Alors le cas Slate.
Le cas Slate et sa respectabilité, n'est-ce pas, qui ne fait que des articles sérieux, pas de liste à la con, pas de trucs comme ça. Ou alors dans la partie lol de Slate, n'est-ce pas. Il n'empêche que même sur un article sérieux, donc complètement premier degré, etc., on va vous informer les gens. Je dis les gens, frappez-moi. Le lien pour aller sur l'article, c'est d'une putasserie.
Oui. Non, mais c'est l'URL. Mais c'est
l'URL. Nabila, couteau, couteau, Loana, string. Voilà, super. Pour parler de la loi Macron. Génial, les mecs. Ouais, super, super.
On dirait un code de coffre-fort.
Ça
Nabila,
fait plus
couteau,
de trafic
couteau.
Depuis 2009, ça. Donc c'est juste une blague.
Oui. Non, ça, ça, non. Ça c'est
oh,
super.
On déconne
foi.
Bien, je slay.
La mauvaise foi. On a fait une URL trop abusée pour déconner. Et on va rendre toutes les vues qu'on a générées. Mais arrêtez, putain. Et d'ailleurs, nous prenez pas pour des cons. Pas notre intelligence.
Ce qui est très intéressant, c'est que BuzzFeed maintenant fait des nouvelles URL, c'est des blagues dans l'URL. Ouais, donc ils font plus de référencement, mais ils font carrément des blagues dans l'URL.
Bah, tu vois, nous on fait pas.
Ouais, mais Slate, ils vont faire ça dans 5 ans en disant non, mais c'est pour rire, les 100 millions de vues, on vous
le
rend.
Putain.
C'est chiant.
D'accord. C'est comme Reddit qui partage les bénéfices avec les Redditors.
Allez, évidemment.
Thibaut, tu veux dire quelque chose? C'est tellement pas drôle ce que je veux dire, mais il me semble que les news buzz, c'est une typologie de contenu, c'est-à-dire qu'on décide de, si j'étais un directeur de journal papier, je dirais tiens, j'ai envie de faire un tabloïd, j'ai envie de faire du gossip. Bah, il y a des rédactions web qui décident de faire du news buzz, voilà. C'est un choix. Elles sont qu'elles auront plus de clics, elles vont faire moins de contenu et c'est un choix.
Mais
tu vois,
la question, c'est quand tu es une nouvelle rédaction, parce que la question qui se pose là, histoire de bien recentrer le débat, est-ce que quand tu es une jeune rédaction, tu es obligé de passer par ces articles qui marchent très bien pour t'en sortir?
Je lis des magazines en ligne spécialisés, jeux de rôle, SF, tout ça. Ce sont des gens qui ont renoncé à ça.
Oui, mais là, tu es dans des communautés qui sont des communautés, on va dire, captives, qui sont curieuses, qui vont d'elles-mêmes. Quand tu veux rentrer dans le game des médias et de survivre et de surnager et d'exister, est-ce que tu dois faire des articles, des listicles, c'est des articles un peu putes?
Non. Mélissa et moi, on sort d'une entité qui s'appelle Le Plus, qui s'est transformée en ça.
Tu sais que tu ressembles à un mec qui ressasse des histoires sur son ex depuis 10 ans à chaque fois. À chaque fois, t'es là, tu fais bon, je voulais vous parler du Plus parce que franchement, j'en ai gros sur la. Non, je suis totalement passé à travers, je suis passé à autre chose, mais j'ai besoin d'en parler quand même.
Mais ils font pas de liste en plus.
Non, mais ce que Sébastien évoque, en fait, c'est juste la stratégie de BuzzFeed, c'est que BuzzFeed s'est créé sa notoriété sur ce genre de contenu et que maintenant, ils font du contenu politique. Ils font des articles de sociaux, bon, toujours un petit peu
mais du coup,
très
c'est pas
décalé,
sérieux,
etc.
Tu prends pas au sérieux, on est d'accord.
De plus en plus.
BuzzFeed aux États-Unis a une vraie crédibilité maintenant.
Mais les États-Unis, au niveau de l'information, bon. Non, mais voilà.
Non, mais BuzzFeed a de plus en plus de cred.
Bon, pour finir là-dessus, sur cette FAQ qui est longue comme 3 débats, est-ce que vous êtes d'accord avec Sébastien ou pas? Est-ce que vous pensez qu'il faut
c'était
passer.
C'est quoi la question?
Est-ce que pour exister, un média moyen ou petit doit faire des articles à la BuzzFeed et à Powerdy pour s'en sortir,
non,
où il n'y a pas de solution actuelle?
Non,
ok, non pour Mélissa, non pour Fibre. Sylvain.
Non
pour Sylvain, Daz.
Moi je dirais pas ça forcément, mais il doit faire ce qui marche, ce qui est dans l'air du temps. Donc si
c'est
ça.
Oui,
donc
oui pour Daz. Allez, on s'arrête.
Et voilà.
Studio 404, l'émission de société numérique.
Merci de nous avoir écoutés. Merci au Tank de nous avoir accueillis. En fait, là, le Tank, les mecs, ils attendent de fermer depuis tout à l'heure.
Ils sont là.
On est dans
endormis sur leur chaise.
On est au chaud. On fait des petites fanfictions érotiques. On s'ambiance tous les uns les autres. Le mec, depuis tout à l'heure, il en peut plus. Il a débarrassé 35 fois la table. Un peu comme les serveurs qui essaient de mettre la pression. Il a allumé toutes les lumières. On bouge pas.
Le est fini.
En tout cas, on est vraiment très bien au Tank. Hein. C'est bien.
Ouais,
franchement,
c'est cool, c'est cosy.
C'est bien. C'est peut-être là-bas que naîtra la prochaine startup cool, voire la startup pas cool en tout cas.
Voir la 404-101.
Ouais, voir la 404-101, donc notre prochaine agence de formation Buzz Knowledge pour les politiques. En tout cas, on se retrouve le mois prochain, ça nous a fait très plaisir. Alors le mois prochain, on espère qu'on vous préviendra plus en avance, comme ça on pourra accueillir du public, parce que ce soir, ils sont trois fidèles à être venus nous regarder. Et en tout cas, ça se passera bientôt en mars. En attendant, soyez sages, regardez des complots, regardez des fanfictions de complots, je pense que là, on est vraiment très très loin. Voir, essayer de créer des fanfictions de complots dans l'univers d'élite.
Avec des gens de Studio 404.
En mettant des liens sur Facebook.
En mettant les liens sur Facebook. Allez, à très vite.
Bye.
Ciao. We'll be right back.